Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Martin Masse et on discute du mouvement libertarien. Également, on lève le voile sur les mensonges au Québec concernant la stratégie pétrolière de la Norvège avec notre ami Jonathan Gagnon. Bonne émission, on se retrouve dans deux minutes. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre cinquième rendez-vous. Ben oui, déjà cinq émissions depuis le début de la saison de Connaître la suite. Donc ce soir, une émission encore bien remplie. On va avoir avec nous Martin Masse, avec qui on va discuter du mouvement libertarien. Aussi un peu plus tard à l'émission, on va s'entretenir avec Jonathan Gagnon, qu'on a entendu une première fois à l'émission, à la toute première d'ailleurs. On va parler de tous les mensonges qu'on entend actuellement concernant la stratégie pétrolière de la Norvège, parce que on le sait, on se compare évidemment au Québec énormément de ce temps-ci avec d'autres pays concernant l'exploitation des ressources naturelles. Donc assez souvent, on fait référence à des modèles qui, pour certaines personnes, sont des exemples, mais on va voir avec Jonathan, justement, que des fois, c'est pas toujours la vérité qu'on obtient de ces gens-là. Donc, là-dessus, c'est sûr qu'on va démystifier le tout avec Jonathan. D'ailleurs, je vous donne nos coordonnées pour nous rejoindre. Donc, il y a deux façons. Il y a le tweet. Donc, c'est possible de nous rejoindre via notre Twitter au Connaître Suite. Donc, c'est assez simple. Et sinon, vous avez l'adresse courriel qui est le info@connaitrelasuite.com. Donc, à ce moment-là, c'est très facile de nous envoyer un courriel, que ce soit durant l'émission, si jamais vous avez des questions que vous voulez qu'on pose à nos panélistes, n'hésitez pas à le faire. Donc, c'est sûr que on est diffusé en direct tous les vendredis entre 20h et 22h. Sinon, on va cumuler vos courriels et on peut faire aussi des retours avec nos chroniqueurs qui, à chaque semaine, nous apportent des sujets. Donc, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, on va les acheminer à ces gens-là, c'est sûr et certain. Aussi, concernant l'émission, c'est disponible via notre site Internet en podcasting. En bon québécois, on appelle ça la balado-diffusion. Donc, si vous venez au site Internet de Connaître la suite, donc le www.connaitrelasuite.com, il y a un lien en haut complètement à votre droite et vous allez voir balado-diffusion. Vous cliquez là-dessus et ça va vous amener à la page qui va vous donner accès, évidemment, au balado-diffusion, que ce soit de l'émission de ce soir ou des précédentes émissions. Donc, tout est archivé. Vous pouvez télécharger dans votre baladeur MP3 ces émissions-là. Et évidemment, vous pouvez les écouter aussi à même votre ordinateur. Je voudrais mentionner pour ceux qui ne sont pas abonnés à la radio satellite ou ceux qui sont abonnés à la radio satellite, mais qui voudraient nous écouter à partir de la maison ou à partir du travail, à partir d'un ordinateur, bref, vous pouvez le faire en vous connectant au site radioshock.fm. Donc, c'est notre diffuseur pour ce qui est de la diffusion sur Internet, donc le radiochoc.fm. À ce moment-là, ça va être facile pour vous de nous écouter pour ceux qui n'ont pas peut-être la mobilité ou accès à un radio satellite XM. Donc, sur ce, on va déjà parler à notre premier invité qui se joint à nous à l'instant. Non? Donc, je pense qu'on est en train de le contacter sur une autre ligne. En fait, on va s'entretenir avec Martin Masse, qui est directeur du Québécois Libre, qui est un magazine. Moi, ce qui m'a amené à vouloir contacter Martin, c'est concernant un article sur Internet que j'ai vu qui sont les libertariens sont-ils à gauche sur la question sociale? On me fait signe de prendre Martin sur la 1. Donc, ben c'est ça, comme je mentionnais, nous avons le plaisir de nous entretenir de libertarianisme avec Martin Masse, directeur du magazine Internet Le Québécois Libre. Bonsoir Martin et bienvenue à l'émission Connaître la suite.
Bonsoir Steve.
On a eu quelques difficultés, désolé, c'est nous qui avons fait une mauvaise manipulation. Des choses qui arrivent. Avant d'aller plus loin, Martin, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le libertarianisme?
C'est une philosophie politique qui met l'accent sur la liberté individuelle, sur le fait que les individus doivent pouvoir contrôler tous les aspects de leur vie, et évidemment dans les limites de la liberté des autres et du droit des autres. Et donc, c'est une philosophie qui a toutes sortes de ramifications sur le plan économique et à tous les niveaux. Mais en gros, ça se résume à ça. C'est basé sur... On peut mettre l'accent sur d'autres aspects, comme par exemple le principe qu'on appelle le principe de non-violence. On n'a pas le droit d'enclencher des actes violents envers les autres individus. On peut seulement coopérer avec les autres. On peut mettre l'accent sur les droits de propriété. On a des droits de propriété sur nous-mêmes ou sur les choses qu'on transforme de la nature. Mais ça revient toujours, en gros, à la question de la liberté. Droit de faire ce qu'on veut dans la limite de la liberté des autres.
À qui on doit ces grands principes directeurs, justement, qui sont l'essence même, justement, des libertariens? Ça date de où? Et c'est qui l'initiateur un peu de ces principes directeurs?
Il n'y a pas vraiment un initiateur. C'est une philosophie dont on peut retrouver des éléments dans l'Antiquité, dans la Grèce et la Rome antique. C'est, disons, plus récemment dans les siècles passés, c'est une philosophie qui s'appelait plus couramment le libéralisme. En Europe, c'est les premiers philosophes qui défendaient ces idées-là au 17e, 18e siècle se définissaient comme libéraux par opposition à des régimes, par exemple en France, en Angleterre, à des régimes monarchiques qui étaient très autoritaires, et où il n'y avait pas de liberté formelle, ou en tout cas où la liberté dépendait souvent de tradition et du bon vouloir du prince. Et ces gens-là ont lutté pour les droits des individus, mais le terme libéralisme a évolué de toutes sortes de façons, et notamment en Amérique du Nord, il ne veut plus dire vraiment la même chose. Et c'est pour ça que des gens ont transformé un peu, sont allés un peu plus loin dans la philosophie. Là, c'est évidemment, ça s'appuie sur la tradition libérale classique, mais dans certains cas, ça va plus loin. Puis on sait qu'au Canada, par exemple, les partis libéraux du Canada et du Québec sont pas tout à fait des modèles de partis qui défendent la liberté. Donc, le terme a évolué. Il y a tout un pedigree. Là, les anglophones ont repris le terme libertaire qui était français, mais qui voulait dire autre chose, qui voulait dire anarchiste et anticapitaliste, anti-marché. Ils ont transformé ça en libertarian, et nous, on a repris ça pour en faire un calque en français libertarien.
Oui, parce que justement, quand on regarde le choix des mots, des fois c'est assez important lorsque justement on veut mettre de l'avant-plan des idées. Est-ce que justement le fait qu'on associe peut-être des fois les principes libéraux ou libertariens, ça vous nuit ou c'est...
Non, ça montre que c'est une philosophie qui a une longue tradition. En fait, quand je veux expliquer aux gens c'est quoi le libertarianisme ou le libéralisme classique, c'est essentiellement la philosophie qui définit la civilisation occidentale. On a tous les avantages de la civilisation occidentale parce que nos sociétés en Europe et en Amérique du Nord ont évolué selon un modèle libéral, c'est-à-dire selon un modèle qui défend la propriété privée, le droit des individus de posséder leurs biens, leurs terres, des droits fondamentaux de ne pas se faire spolier par le gouvernement, d'avoir une liberté de faire des contrats, de commercer, etc. Tous ces droits-là qu'on tient pour acquis aujourd'hui, qui ont amené l'industrialisation, le boom économique, le miracle économique de ce qu'est l'Occident, qui est la première civilisation très riche de l'histoire du monde, c'est basé sur le libéralisme, sur la libre entreprise. Donc, ce sont ces principes-là et le fait qu'ils ont été appliqués au 17e, 18e, 19e siècle, qui fait qu'on est des sociétés riches et relativement libres, et parmi les plus riches et libres, finalement, dans l'histoire du monde. C'est le libéralisme, la philosophie qu'on défend, c'est la philosophie qui a créé la civilisation occidentale, mais on veut l'appliquer de façon plus cohérente et notamment... ces dernières décennies, ce que les libertariens constatent, c'est que ces principes-là, ils sont en recul en Occident.
Oui, ben c'était ma prochaine question, parce que on remarque au Québec, puis on semble arriver au constat que la gauche est omniprésente et a accaparé le paysage québécois. Est-ce que c'est un peu comme ça ailleurs dans le monde, ou on fait exception?
Non, on fait pas du tout exception. C'est... Le 20e siècle est le siècle de la croissance de l'État. C'est vraiment le siècle qui a vu les... On peut analyser ça de toutes sortes de façons. Par exemple, si on prend juste la part des dépenses de l'État dans le PIB, qui est une sorte de critère standard pour voir si on a un gros ou un petit État, il y a 100 ans, pratiquement partout en Occident, y compris chez nous ici, les États dépensaient ou... Les dépenses publiques comptaient pour moins de 10 % de l'ensemble de l'économie et c'est monté jusqu'à 40-50, au-delà même de 50 % dans plusieurs pays sociodémocrates en Europe au cours du 20e siècle. Vraiment, les États ont pris une place très, très, très importante, ont développé toutes sortes de programmes. La réglementation a explosé. Il y a toutes sortes de choses qui ont grossi, qui sont liées à l'État. On peut parler des totalitarismes, les grandes idéologies totalitaires du 20e siècle que sont le fascisme et le communisme qui ont dominé ce siècle-là. Quand on va parler du 20e siècle dans 500 ans, dans les livres d'histoire, on va parler des siècles du siècle du totalitarisme.
Mais comment on peut expliquer que, justement, le fait que ces concepts-là sont à l'essence même, justement, des droits et libertés, comment on a pu reculer autant et comment les gens ont pu, selon toi, accepter, justement, de peut-être perdre du terrain sur des batailles qui ont été menées jadis, il y a 200 ou 300 ans, justement, pour aller de l'avant avec des principes de droit de la propriété, droit de liberté? Comment aujourd'hui les gens peuvent avoir autant perdu de terrain et laisser un peu, justement, ce pouvoir de liberté au gouvernement? Comment tu expliques qu'on a eu ce recul-là et qu'on a surtout laissé les choses aller?
C'est une grosse question. Il faudrait remonter au 19e siècle quand les mouvements, justement, collectivistes et étatistes ont commencé à développer. On parle du marxisme. Bon, il faut se remettre dans le contexte du 19e siècle. Il y a une grosse poussée, évidemment, de l'industrialisation et du niveau de vie. Le niveau de vie a augmenté énormément du 19e siècle. C'était une époque très, très dynamique entre la fin des guerres napoléoniennes en 1815 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914. On a le siècle qui est probablement le plus dynamique sur le plan économique dans l'histoire du monde, mais ça crée une masse de gens qui... partent des campagnes, évidemment, à l'époque, là, la plupart des gens vivaient encore sur des fermes. Là, il y a l'industrialisation, ces gens-là se rendent dans les villes pour trouver des emplois plus rémunérateurs. Il y a tout un courant d'idées qui considèrent ça comme une forme d'exploitation nouvelle. Ces gens-là se retrouvent souvent dans des conditions très difficiles dans les villes, mais de leur point de vue, c'est une amélioration par rapport à ce qu'ils vivaient sur les fermes. Sauf qu'il y a là un terreau fertile pour les syndicats, les mouvements communistes, etc.
Donc, à partir de ce moment-là, on a troqué justement cette liberté-là de propriété pour un statut dans des milieux urbains où on devait, à ce moment-là, aller plus vers le communisme, comme tu dis?
Ben, ça c'était pas nécessairement les gens n'ont pas nécessairement troqué des droits de propriété dans les campagnes. Hein. Il y avait plein de gens qui étaient juste des travailleurs qui n'avaient pas de terre. Là. Évidemment, là, on fait des grosses généralités. Là, ça dépendait des pays. Il y avait toutes sortes de situations différentes. Mais si on veut analyser, par exemple, la montée des mouvements de gauche et d'extrême gauche, le socialisme, le communisme, vers les années 1850, Karl Marx, etc. Il trouve un terreau fertile parmi ces populations-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prolétariat urbain et industriel dans les grandes villes en Europe. Il y a toutes sortes d'autres raisons aussi. Il y a la montée de ce qu'on pourrait appeler la technocratie au tournant du 19e, à la fin du 19e, début 20e siècle. Quand on parle aux États-Unis, par exemple, de l'ère progressiste, c'est une époque où on commence à vouloir tout systématiser, le développement urbain, le développement des transports, toutes sortes de choses comme ça. Puis il y a une nouvelle classe de technocrates qui prennent le pouvoir au sein des gouvernements, des villes et des États, qui veulent tout réglementer et développer de façon rationnelle la société. Et pour faire ça, ils se mettent à nationaliser, puis à brimer les droits des individus, puis à vouloir finalement planifier la société. C'est un autre courant. Il y a toutes sortes d'autres courants qui ont émergé, mais tous ces courants-là se mettent ensemble. C'est un petit peu des visions utopistes de la réalité qui veulent planifier la société selon un modèle idéal. Et pour faire ça, les individus qui ont toutes sortes de désirs et de volontés et d'idéaux un peu incohérents, ben là, on dit, ben tassez-vous, on prend la place, on va décider à votre place comment on va gérer votre vie. Et là, on applique toutes sortes de choses. Et la seule façon d'appliquer tous ces modèles-là, c'est évidemment par le pouvoir coercitif de l'État. Et bien souvent, c'est des philosophies qui ont des objectifs, disons, louables, qui veulent améliorer la vie des gens, mais ils le font en réduisant notre liberté. Et ça a toutes sortes d'effets pervers qui, en bout de ligne, font bien souvent en sorte que les choses sont pires qu'elles étaient et qu'elles seraient si on laissait les gens plus libres.
Est-ce que c'est ce qui est à la base de la motivation, justement, des libertariens au tournant des années 90? Parce que, justement, toi, avec le Québécois libre, je pense que c'est pas une bataille que tu mènes depuis 2-3 ans, c'est au tournant des années 90. Est-ce que c'est suite à tout ce recul-là que là ça a été l'élément déclencheur? Et est-ce qu'en général, dans le monde, les libertariens commencent à s'exprimer davantage et à vouloir regagner le terrain?
Ben, il faudrait voir qui sont les libertariens et comment il y en avait, combien il y en avait, parce que vraiment, il y a 50 ans, ce qu'on appelle le courant libertarien aujourd'hui, là, c'était presque mort. Hein. Aujourd'hui, là, on a l'impression que c'est nouveau, là, cette domination-là de l'État. Tu me demandais tantôt, est-ce que c'est le Québec, tout ça, mais non, ça date vraiment de... Ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, même un petit peu avant. Ça dépend toujours où tu veux commencer, où tu veux voir le début de la tendance, mais la tendance vraiment de nationalisation, d'étatisation, de collectivisation là, en Occident, elle a fait un énorme bond avec la Première Guerre mondiale. Ensuite, avec la Grande Dépression, où il y a eu l'adoption de toutes sortes de politiques très interventionnistes dans l'économie. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale. Et là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le développement de l'État-providence. Tout ça, toutes ces étapes-là ont poussé toujours plus le mouvement vers le contrôle de l'État dans nos vies. Et sur le plan intellectuel, la tradition libérale classique, donc, elle s'est vraiment pratiquement éteinte durant la première partie du 20e siècle. Il y avait très, très peu d'intellectuels partout dans les universités, les journalistes, tout ce qu'on appelle la classe des gens là, qui diffusent des idées. Il y avait pratiquement plus personne qui croyait dans le libéralisme classique. Disons, en 1940, c'était vraiment rendu une tradition morte. Et
donc, la pente à remonter est...
Elle était très, 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 très...
elle est considérable.
Abrupte. Et il y avait quelques intellectuels qui ont vraiment gardé cette vision-là vivante, comme des gens comme Friedrich Hayek, Ludwig von Mises. Bon, on parle de la tradition autrichienne. C'était quelques intellectuels européens qui, la plupart, ont ont évidemment immigré aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre pour éviter de mourir dans les répressions en Autriche qui était sous le contrôle allemand. Mais c'est ces gens-là qui se sont trouvés après la Deuxième Guerre mondiale, ont fondé une société qui s'appelle la Société du Mont-Pèlerin, qui existe encore, qui fait des rencontres internationales. Ils étaient une poignée à l'époque, tout de suite après la Deuxième Guerre. Et ça, là, ils ont été rejoints par quelques autres au fil des décennies, mais vraiment, l'éclosion de ce qu'on appelle le mouvement libertarien aujourd'hui, là, c'est quelque chose de très, très récent parce que la tradition était pratiquement morte.
Et toi, avec ton implication au Québec, puis justement avec le magazine Le Québécois Libre, comment tu analyses là, la progression dans les 10 ou 15 dernières années par rapport aux libertariens au Québec? Est-ce qu'on est sur une bonne pente?
Oui, on est sur une très bonne pente. On vit un peu le même phénomène que ce qui a été vécu, par exemple, aux États-Unis avec quelques décennies de retard ou dans d'autres pays en Europe. Juste pour raconter une petite histoire que j'ai déjà racontée ailleurs, mais il y a en janvier 1995, il y a donc un petit peu plus que 16 ans, moi je venais depuis quelques années de découvrir les idées libertariennes, je lisais là-dessus. Moi, j'avais fait mon propre cheminement intellectuel, mais je connaissais personne d'autre au Québec qui était libertarien. On parle d'avant Internet. Et là, par un concours de circonstances, à l'époque, j'avais publié un livre sur la question nationale, la politique au Québec. J'avais eu une chronique dans Le Devoir pendant l'été 94. Et là, j'avais commencé à écrire des articles, des chroniques. J'étais chroniqueur invité. Et j'avais écrit quelques chroniques qui défendaient des idées, donc, qu'à l'époque, j'appelais libérales. Parce que le mot libertarien, personne ne savait ce que ça voulait dire il y a 15 ans. Et à travers ça, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui lui-même connaissait d'autres personnes, et on s'est retrouvé 5 personnes en janvier 95, c'est-à-dire moi, Michel Kélé-Gagnon, qui plus tard est devenu évidemment président de l'Institut économique de Montréal et du Conseil du patronat, Éric Duhaime, qui aujourd'hui est au Journal de Montréal et au Réseau Liberté Québec. Son ami avec qui il était allé à l'école, Pierre Desrochers, avec qui j'ai travaillé plus tard à l'Institut et qui aujourd'hui est à l'Université de Toronto. Et Pierre Lemieux, qui était un petit peu plus vieux que nous autres. Nous autres, on était tous des jeunes dans la vingtaine à ce moment-là. Pierre avait une quinzaine d'années de plus que nous. Il était le seul qui, lui, avait déjà écrit des choses là-dessus et était un petit peu connu. Et on s'est retrouvés, on était les 5, et à part quelques autres contacts que Pierre Lemieux avait dans le monde des affaires, dans le monde universitaire, on ne connaissait aucun autre libertarien. On s'est rencontrés, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Là, on connaît personne, nos idées sont totalement inconnues, et il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et juste pour rire un petit peu, Pierre Lemieux avait amené son laptop pour nous montrer aux quatre autres ce que c'était l'Internet. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Alors, on est allé sur le site de la Library of Congress, le site de M. Bouchard qui était... Premier ministre du Québec. Et c'était pas Lucien Bouchard, c'était Jacques Parizeau. Bref, ça a commencé là, on a discuté, il faudrait fonder un institut, un magazine, des choses comme ça. Et ça, c'était il y a 16 ans, on était 5, et là, 16 ans plus tard, on est des milliers qui connaissent ça. Il y a le Réseau Liberté Québec, le mot est finalement connu et utilisé dans les médias. Et ces idées-là, suffisamment pour que vous autres, vous ayez votre radio qui est basée sur la liberté et la responsabilité individuelle, ce qui sont exactement des mots-clés de cette philosophie-là. Donc, ça a évolué extrêmement rapidement.
Et la grande question, les libertariens sont-ils à droite? Parce que, évidemment, pour des néophytes, des fois, on associe directement ces principes directeurs-là, peut-être parfois trop souvent à la droite, mais... c'est fondamentalement droite ou gauche?
Ben, ma réponse à ça, c'est toujours qu'on n'est ni à droite ni à gauche parce que il y a des gens et à droite et à gauche qui, enfin, essentiellement, la droite et la gauche ont deux points de vue ou deux perspectives qui sont étatistes, mais qui défendent des valeurs différentes et qui cherchent toutes les deux à les appliquer par l'entremise de l'État, par le pouvoir de l'État. À gauche, il y a des gens qui veulent utiliser l'État pour redistribuer la richesse, contrôler l'économie, imposer toutes sortes de valeurs culturelles qui sont celles de la gauche. À droite, il y a même chose, des gens qui veulent imposer leurs propres valeurs religieuses ou traditionnalistes, qui sont en faveur de l'intervention massive de l'État pour intervenir militairement dans les affaires d'autres pays. Il suffit de penser aux Américains avec leur empire partout dans le monde et qui interviennent dans les affaires de tous les pays du monde depuis un siècle où ils n'ont pas d'affaires. Il y a aussi d'ailleurs plein de gens qui se considèrent à droite et qui ne sont pas du tout pour le libre marché, mais au contraire pour une forme de corporatisme, c'est-à-dire de planification de l'économie où le secteur privé et l'État sont main dans la main, le copinage, etc. Donc, il y a vraiment les régimes de gauche et de droite sont à bien des égards très semblables dans leur recours à l'État pour imposer leur vision du monde. Et bien souvent sont très peu en faveur de la liberté individuelle, du libre marché. Cela dit, pour toutes sortes de raisons historiques, et en particulier le fait que depuis après la guerre, pendant la guerre froide, les libertariens ou les libéraux classiques étaient évidemment du côté des défenseurs de la liberté contre le communisme. C'est vraiment ça qui a été la perspective dominante là, quand on voulait sauver la liberté dans le monde en 1950, 60, 70, 80. C'était qu'on était contre le communisme qui était la principale menace. Et c'est pour ça que les libertariens se sont en général rangés sur le spectre politique vers la droite ou en tout cas à plus près des partis conservateurs dans la plupart des pays. Et donc, on les considère en général à droite et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais moi, par exemple, je pense que j'étais plus opposé à George Bush, George W. Bush sur plein de sujets que je l'étais, que j'étais opposé à d'autres partis comme ou par exemple à Clinton, son prédécesseur. J'ai toujours préféré Clinton à Bush, même si Clinton était à gauche. Mais Clinton a réduit la taille de l'État américain, alors que Bush l'a augmenté.
Oui, effectivement.
C'est peu su, ça, justement.
Ben justement, c'est ça. Personne, c'est ça. Les gens réagissent. Le réflexe premier, c'est « Ah, c'est un gauchiste, il a dû augmenter la taille de l'État. » C'est comme Reagan. Ronald Reagan était un grand homme sur plein de points. Il avait un discours très intéressant. Mais dans les faits, il a grossi la taille de l'État américain. Ou en tout cas, si on regarde les dépenses, par exemple, il a grossi. Il n'a pas vraiment rien coupé. Il n'a pas éliminé ou aboli de programme ou quoi que ce soit. Alors que Clinton l'a fait. Donc, il faut faire une différence entre la rhétorique, qui parfois est intéressante. Ronald Reagan a dit plein de choses. L'État n'est pas la solution, l'État est le problème, etc. Qui sont plein de choses qui sont intéressantes. Il avait une belle rhétorique, mais il n'a pas fait grand-chose.
En bon québécois, les babines n'ont pas suivi les bottines.
les bottines n'ont pas suivi les babines.
C'est ça, oui.
Mais même chose aujourd'hui avec le gouvernement fédéral. Stephen Harper est un ancien de mes amis avec qui j'ai milité dans le Parti réformiste au milieu des années 90, dans le temps où il était là. J'ai eu des contacts avec lui plus tard quand il était à la National Citizens Coalition. Aujourd'hui, il est premier ministre et il grossit l'État canadien au lieu de le réduire.
Mais justement, ces idées-là libertariennes, est-ce qu'ils ont une place dans la politique active? Est-ce qu'il y a de la place dans nos partis, que ce soit de droite ou de gauche?
Oui, je pense qu'il y a de la place. Ça dépend toujours de ce qu'on va faire. Moi, par exemple, j'ai été impliqué en politique. J'ai été le conseiller du ministre Maxime Bernier, qui était ministre de l'Industrie. Maxime a fait des choses intéressantes, contrairement au reste de son gouvernement.
Mais il n'en paye pas le prix un peu, justement, à cause de ça, parce que, veut pas, son discours ne passe pas toujours au sein du parti. Il passe beaucoup, je pense, justement, pour ceux qui sont, qui adhèrent à ses
philosophies. Ça dépend de qui on parle. Au sein de la base du parti, il est très, très populaire. C'est ça que le conservateur moyen veut entendre un peu partout et qu'il n'entend pas de la part de son gouvernement, justement. M. Bernier exprime ce point de vue-là qui est pratiquement aujourd'hui complètement enterré dans le parti dans le gouvernement conservateur. Donc, il y a des choses à faire. Simplement, moi, j'ai toujours dit que c'est une perte de temps de militer pour des partis qui sont vaguement réformistes, comme l'ADQ l'a été pendant très longtemps et il l'est encore. Jusqu'à preuve du contraire, là, sous avec M. Deltel, mais il a été pendant longtemps avec Mario Dumont. J'avais plein d'amis libertariens qui s'étaient impliqués là-dedans. Je leur disais, non, c'est une perte de temps, ça va aller nulle part. Et militer dans des partis alors que, quand on sait comment ça fonctionne, c'est vraiment le chef et la petite clique autour de lui qui peuvent, du jour au lendemain, changer les politiques, changer les positions. C'est une perte de temps, militer. Il faut vraiment qu'il y ait un groupe de gens extrêmement déterminés et avec des principes extrêmement clairs et radicaux à la tête et qui le font savoir et qui le prouvent quotidiennement dans leur prise de position. Dans ce cas-là, ça vaut la peine de s'impliquer et d'essayer de faire avancer les choses. Sinon, c'est une perte de temps. Il faut, avant de s'impliquer dans la politique, il faut qu'il y ait un terreau fertile sur le plan des idées. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai milité pour le Parti réformiste il y a 15 ans. Le Parti réformiste était très mal vu au Québec parce qu'il y avait des positions contre le bilinguisme traditionnel impliqué d'un océan à l'autre. Il n'était pas pour, contrairement à ce que plein de gens pensaient, il ne voulait pas que le Québec s'assimile. Il voulait juste ne pas se faire imposer du français dans des régions de l'Ouest où il n'y avait pas de francophones, des choses comme ça. Mais il était dirigé par quelqu'un, Preston Manning, qui n'a jamais appris le français et qui avait l'air d'un preacher à la voix nasillarde, etc. c'était pas nécessairement une très belle image, mais les principes du parti étaient extrêmement libertariens. En grande partie, le programme réformiste, c'était de réduire de façon radicale la taille de l'État fédéral. Et malheureusement, les gens n'étaient pas intéressés par les idées, ils étaient intéressés par l'image négative. Enfin rebuté. Et je me suis dit à ce moment-là, je viens de passer 2 ans dans ce parti-là et essentiellement, on essayait d'organiser du vent. Ça n'a rien donné du tout et je me suis dit, il faut qu'on fasse connaître les idées avant de pouvoir faire de l'organisation politique. C'est pour ça que j'ai fondé le Québécois Libre quelques années plus tard. Donc, il y a de la place, oui, mais avant de penser faire quelque chose politiquement, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de gens qui les comprennent, ces idées-là, qui les diffusent. Il faut qu'on les entende, il faut qu'on les débatte dans les médias. Il faut qu'elles soient légitimes aussi. Quand on arrive et qu'on présente une idée libertarienne, puis que les gens nous regardent comme si on était un extraterrestre, on peut pas penser à aller chercher des votes avec ça.
Est-ce que tu crois qu'au Québec, vous avez de la visibilité par rapport à ça, parce qu'on sait que nos médias ont tendance à promouvoir des discours de gauche. Est-ce qu'il y a suffisamment de place dans les médias écrits, à la radio, à la télé, pour justement promouvoir ces idées-là?
Ben, ça change, justement. Ça change très, très vite. Il y a quelques années, il y avait zéro place. Il n'y avait aucune place. Moi, j'ai été barré de la plupart des médias au Québec, même si j'ai fait quand même un certain nombre de choses qui pourraient peut-être intéresser des journalistes. Mais à part quelques exceptions, là, par exemple, Marie-France Bazot, qui m'a invité plusieurs fois à son émission à Il va y avoir du sport il y a quelques années. À part des exceptions comme ça, j'ai été barré de la presse, Le Devoir, Radio-Canada, etc. Mais ça change. Aujourd'hui, on voit que dans le Journal de Montréal, par exemple, des amis libertariens à moi qui ont des chroniques là, Éric, Nathalie Grably, David Descoteaux, de plus en plus les médias comprennent que c'est un courant qui a sa place et qui a une certaine influence, donc ils sont obligés d'en parler. Moi, j'ai l'impression que si on continue comme ça dans quelques années, on va devenir une composante là, essentielle de tous les débats. Juste avoir aussi l'influence de l'Institut économique de Montréal. Quand on a commencé, j'étais là dès le début, en 2000, je suis devenu le directeur des publications à l'Institut. Je suis resté là 7 ans. Et au début, on était une gang de jeunes inconnus qui essayaient juste d'avoir une petite voix là, et de se faire entendre. Et aujourd'hui, l'Institut est partout. Là, je veux dire, on entend constamment parler des études de l'Institut. Donc, les choses ont énormément changé depuis 15 ans. C'est clair.
En coulisses, là, ça s'est passé comment au ministère de l'Industrie de voir arriver une personne comme vous qui est libertarien? C'est quand même un ministère de l'Industrie, c'est quand même... un ministère qui fait beaucoup d'interventions dans l'économie, tu sais, dans les coulisses, ça se passait comment? Les hauts fonctionnaires vous ont accueilli comment?
ma définition du ministère de l'Industrie, c'est que il réglemente la moitié de l'économie canadienne et subventionne l'autre moitié. Mais c'était. Écoute, c'était. Il y avait évidemment un certain scepticisme. Là. Écoute, on arrive là avec nos gros sabots, puis on veut faire des changements, mais ce qui se passe dans un ministère comme ça, c'est que ce dont on se rend compte rapidement, c'est que les fonctionnaires ont toujours le gros bout du bâton. Alors, ils nous voient arriver, évidemment, ils nous considèrent un petit peu comme des gens bizarres, mais de leur point de vue, il faut pas oublier que eux autres sont là depuis plusieurs années. Nous, on arrive, on essaie de faire quelques affaires pendant un an ou deux, et on va être parti dans un an ou deux. Ils savent avec, je veux dire, statistiquement, un ministre, surtout dans un gouvernement minoritaire, n'a pas de chance de rester là très, très longtemps. Va se faire remplacer pour une raison ou une autre, une élection ou un remaniement. Et donc, de leur point de vue, on est un petit groupe de fatigants qui sont là pendant un petit bout de temps et avec qui ils doivent composer et qui vont être rapidement remplacés par d'autres. Mmh. Et donc, c'est juste de s'organiser pour nous manipuler et nous contrôler dans la mesure du possible pendant qu'on est là jusqu'à ce qu'il y en ait d'autres qui viennent. Et c'est ça qui est arrivé. Vraiment, la fonction publique, c'est la fonction publique qui gère à peu près tout à Ottawa. Et pour changer quoi que ce soit, et on a réussi à faire des réformes importantes en télécommunications, mais vraiment, c'est un jeu d'échecs quotidien contre les fonctionnaires qui sont supposés être nos employés. On est supposé dire, de déterminer la ligne politique à suivre, là, de dire, bon, ce gouvernement-là décide de faire telle chose, et donc on vous demande de mettre en œuvre telle chose, ou de nous aider à faire telle réforme, etc., mais on se rend compte vite que les fonctionnaires ont leur propre
agenda,
comme on dit en mauvais français, leur propre ordre du jour, leur propre vision politique à appliquer. Et donc, il faut se battre contre eux. C'est pas nos fonctionnaires, nos employés, c'est en fait un autre groupe de pression qui contrôle l'État et contre lequel, mais qui, pour toutes sortes de raisons, là, évidemment, on est dans une démocratie, est obligé de suivre la forme là, de la soumission au pouvoir politique. Ils ne peuvent pas nous contester ouvertement, mais ils le font de toutes sortes de façons. Si vous regardez, vraiment, une excellente émission que je conseille à tout le monde, c'est de regarder Yes Minister, la série britannique, la comédie britannique du début des années 80. Évidemment, c'était présenté comme une comédie, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Tous les trucs que les fonctionnaires ont pour ne pas faire des choses que le ministre veut qu'il fasse, ou les faire autrement, ou court-circuiter les volontés du ministre, les plans du ministre, etc. Il contrôle tellement de choses. Il contrôle l'information, il contrôle l'ordre du jour dans le sens où telle réunion qui doit avoir lieu, où la décision doit être prise, ils vont s'organiser pour vous donner les mémos importants quelques heures avant pour toutes sortes de raisons, etc. Donc, vous n'êtes pas préparés. Eux autres sont très bien préparés. Eux autres, ils font ça depuis des années. Mm-hmm. Ils connaissent tous les raccoins de la bureaucratie, connaissent toutes les règles et ça. Vous arrivez là et vous ne connaissez rien de ça. Alors, ça prend des mois à apprendre comment la machine fonctionne. Et là, il faut se battre. Et là, c'est toujours la course contre la montre. Malheureusement, M. Bernier est resté seulement un an et demi. On a réussi quand même à faire des réformes importantes, mais qui sont d'ailleurs remises en question maintenant par ses successeurs.
Puis les groupes de pression à l'époque, d'après vous, ils ont-ils fait des démarches pour dire, hey, ces deux-là, là, je ne veux plus y voir ici, parce que c'était avant les controverses médiatiques entourant Maxime Bernier, là, qui était ministre de l'Industrie. Donc, d'après vous, y a-t-il eu des groupes de pression qui disaient, hey, un petit remaniement ministériel, on n'irait pas ça?
Oui, il y a des gens qui ne voulaient pas nous voir là, et il y a eu des. Je veux pas rentrer dans. Je peux pas vraiment dévoiler toutes sortes de choses là, parce que là, je veux pas de poursuites. Mais il y a des gens dans certains milieux d'affaires qui, par exemple, n'aimaient pas nos réformes et se sont opposés à nos réformes. Parce que quand vous faites une réforme, évidemment, il y a des gens qui profitent du système actuel ou de la réglementation actuelle et qui voient que, disons, si vous voulez, par exemple, instaurer plus de compétition dans un secteur, ben les gens qui profitent de la situation actuelle où il n'y a pas beaucoup de compétition et où ils sont des joueurs dominants, ben ils vont s'opposer à votre réforme qui va leur amener plus de compétition. Alors, ces gens-là, ils s'organisent pour faire des gens bêtes et font du lobbying et toutes sortes de choses. Et oui, il y a des gens qui ont essayé qui ont fait des pressions pour arrêter ces choses-là et se débarrasser de nous.
OK. Juste savoir quelques positions que peut avoir un libertarien sur certains sujets ou tout ça, comme exemple, comment un libertarien réagit à un système de santé comme on a au Canada? Quelles devraient être les alternatives pour tout ça, selon le mouvement libertarien?
C'est évidemment de tout privatiser le système. En nationalisant la santé, le gouvernement a nationalisé nos corps d'une certaine façon. On ne peut plus faire ce qu'on veut avec nos corps. On ne peut plus transiger avec d'autres personnes qui sont des médecins pour avoir des services corporels, des services de santé. Tout ça est réglementé, autant ce que offrent les médecins que ce que nous, on peut obtenir des médecins. On n'a pas le droit de consulter certains médecins, etc. Il y a des médecins qui n'ont pas le droit d'offrir certains services, sauf dans certains cas. Donc, essentiellement, le système nationalisé de santé, c'est un système qui empêche les gens de faire des choses qu'ils voudraient faire. C'est toujours présenté comme un système qui offre des services à tout le monde, mais en fait, c'est un système qui empêche des choses de se faire. Parce que si on était tous libres, on pourrait faire toutes sortes d'autres choses. Évidemment, se pose toujours le problème de comment payer ça. Mais là, on revient au problème traditionnel de l'égalitarisme versus la liberté. Si on est tous libres, il y en a qui vont... On peut pas être tous égaux parce qu'il y en a qui vont être plus riches, il y en a qui vont avoir accès à plus de choses, etc. Sauf que la solution libertarienne, c'est au lieu d'empêcher et de mettre des bâtons dans les roues au développement puis à ce que l'offre réponde à la demande, c'est que les gens qui sont plus pauvres, par exemple, on répond à leurs besoins d'une autre façon par des organismes de charité, comme il y avait avant d'ailleurs, quand le système de santé était privé. Il y avait des médecins qui avaient un certain nombre de clients qui soignaient sans demander de paiement. Je connais des vieux médecins qui me racontaient que dans les années 50, il y avait toujours des clients qui allaient voir, ils savaient qu'ils payaient pas, il n'y avait pas les moyens, mais ça faisait partie d'un service d'un médecin dans une région pour avoir une bonne image. On offrait des soins gratuits. Il y a toujours eu des organismes de charité qui se sont occupés des pauvres. Et si on avait un système de santé totalement privé, extrêmement efficace, on dégagerait beaucoup plus de richesses. On aurait un système où les coûts baisseraient au lieu d'augmenter constamment. Il suffit de faire la comparaison, par exemple, avec l'industrie de la chirurgie esthétique. Les coûts baissent constamment, ou l'industrie vétérinaire, les soins vétérinaires. Je dois aller régulièrement chez le vétérinaire parce que j'ai une vieille chatte diabétique. Et ma chatte est mieux traitée comme diabétique que bien des humains. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition. Elle est pas parfaite, là. Je sais qu'il y a des corporations. Je pense qu'il y a une corporation de vétérinaires, je sais plutôt. Mais quand même, c'est beaucoup plus libre que la santé humaine. Et dans une industrie où il y a de la compétition, où il y a de l'innovation, où il y a du dynamisme, où il y a des investissements privés, etc., il y a toujours des gains de productivité. Et donc, les coûts baissent, ou en tout cas, ils n'augmentent pas aussi vite que les revenus des gens. Et il y a toujours plus de soins, il y a toujours plus d'innovation pour donc de meilleurs soins, de meilleurs traitements, etc. Et ça se fait en général. Il suffit de voir, par exemple, ce qui se passe dans l'industrie informatique. Les prix des ordinateurs baissent constamment et la puissance des ordinateurs augmente constamment. Aujourd'hui, on a des espèces de miracles comme les iPads qui sortent de 6 mois en 6 mois, ça s'améliore. On vient de sortir iPad 2. C'est ça, une industrie libre qui fonctionne de façon très, très dynamique. Et il n'y a aucune raison logique pour que ça se passe pas non plus dans le secteur de la santé ou dans celui de l'éducation. Sauf que ce qu'on constate, c'est que tous les secteurs étatisés, où le gouvernement essentiellement met des bâtons dans les roues de tous les acteurs de l'industrie, mais ce qui se passe, c'est que ça coûte toujours de plus en plus cher et c'est de moins en moins efficace et il y a de plus en plus de rationnement parce que les ressources même gigantesques qu'on engloutit là-dedans ne fournissent pas à suivre la demande. Donc, si on privatisait tout ça, ça coûterait probablement moins cher, les services seraient bien meilleurs, puis on aurait du surplus en masse pour répondre aux besoins là, des vrais pauvres et des gens qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes, ils obtiendraient des meilleurs soins dans un tel système privatisé qu'ils le font aujourd'hui, dans un système supposément plus égalitaire et gratuit, entre guillemets.
Un bon exemple de ça, c'est les corrections de la vue au laser qui baissent ouais, constamment.
Tout à fait. Je dois y aller. Puis j'ai justement vieilli et ma vue baisse. Et je me suis dit, tiens, je devrais aller payer ça. Payer pour ça. Et effectivement, les coûts baissent constamment. C'est quelque chose d'extrêmement sûr. Il y a eu énormément de recherches avancées là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est rentable. C'est le profit. Les gens qui sont contre l'économie de marché n'aiment pas la notion de profit. Comme par exemple en santé, on nous dit on peut pas permettre à des entreprises privées de faire du profit sur le dos de la santé du monde, en exploitant les malaises du monde, les maladies du monde, ce qui est totalement ridicule. C'est la raison pour laquelle ils vont tout faire pour vous soigner, c'est parce qu'il y a une possibilité de profit au bout. C'est justement parce que le profit est une incitation importante que les entreprises privées vont faire en sorte de nous donner les meilleurs soins possibles. Elles le font pas tout le temps, elles le font pas toujours parfaitement. Le système privé, c'est pas un système parfait où il y a jamais d'erreur, où il y a jamais de gens qui essaient de nous frauder, etc. Mais c'est le meilleur système pour inciter tout le monde à répondre aux besoins des consommateurs. Alors que dans la logique bureaucratique, au contraire, même si un hôpital, par exemple, a 48 heures d'attente à son urgence, ben tout ce qui arrive, c'est que le ministre leur envoie un email comme le ministre de la Santé a fait il y a quelques mois là, pour essayer de micro-gérer de son bureau à Québec les urgences de tous les hôpitaux du Québec. Mm-hmm. Et là, on va décider peut-être de leur envoyer un budget supplémentaire et de toute façon, les syndicats ne veulent pas changer la structure de ce qui se passe, la division du travail, etc., la façon dont le travail est fait, et il se passera rien. Donc, et de toute façon, c'est pas grave, parce que cet hôpital-là va continuer à avoir son budget, il n'y a pas personne qui va être mis à la porte, il n'y a pas de conséquences. Alors que dans un système privé, un hôpital qui serait aussi mauvais que ça, il n'y aurait pas de clients, on irait à un autre hôpital. S'il y avait tout un paquet d'hôpitaux privés à Montréal, on irait à ceux qui sont reconnus comme offrant les meilleurs soins. On n'irait pas à ceux où il y a 48 heures d'attente.
La semaine dernière, vous étiez à Beauceville pour une conférence.
Oui.
Comment ça s'est passé? C'était sur l'inutilité des plans de relance gouvernementaux.
Oui. Ah, ça s'est très bien passé. Il y avait presque 30 personnes de la région. J'ai fait un exposé sur comment ce sont les interventions de l'État et en particulier les interventions des banques centrales qui sont responsables de la crise, des crises économiques et de la crise qu'on vient de vivre, et comment justement c'est pas encore plus d'interventions des États et des banques centrales avec des plans de relance et une augmentation de la création monétaire comme on fait actuellement avec les fameux assouplissements quantitatifs de Ben Bernanke, le président de la Fed. C'est pas ça qui va remettre l'économie sur les rails. C'est ça qui est la cause des problèmes et de la crise. Et c'est ça que j'ai expliqué. Les gens ont beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, j'ai eu un très bon petit article qui résumait très bien ma présentation dans un média de la région, en Beauce.com, si je me souviens bien, ou édition en Beauce. Et je me disais que si j'avais donné ce discours-là à Montréal, probablement que les médias de Montréal m'auraient totalement ignoré, ou sinon auraient rapporté ça tout croche en disant que j'étais un extrémiste de droite qui veut faire, je sais pas trop, là,
justement,
faire le monde dans la rue.
Justement, Martin, tu vas être de l'événement du Réseau Liberté Québec le 16 avril.
Oui.
Donc, tu vas faire partie du panel qui va regarder au niveau de l'exploitation des ressources naturelles au Québec.
Oui.
Donc, j'imagine c'est pour promouvoir les idées libertariennes par rapport à justement à l'exploitation des ressources naturelles.
Oui, évidemment. C'est d'expliquer que le problème dans ce secteur-là, comme dans tous les autres, c'est qu'il n'y a pas de droit de propriété établi sur les ressources, sur l'environnement, que les gens par exemple, toute la controverse du gaz de schiste, on n'a pas de droit sur le sous-sol et quelqu'un peut, après avoir obtenu un permis de l'État, venir exploiter sur votre terrain. Vous pouvez vous y opposer, mais là, vous avez le risque de vous faire exproprier. Bref, et vous avez rien à dire. Les municipalités non plus n'ont rien à dire s'il y a de l'exploitation chez eux. Moi, j'ai un gros problème avec les gens qui, et je sais que vous avez interviewé M. Duberger, avec lequel je suis tout à fait en désaccord. Moi, je pense qu'il y a des bonnes raisons pourquoi les citoyens s'opposent à ça, mais sauf que la solution, évidemment, c'est pas nécessairement celle des artistes ou de la nouvelle coalition là, qui est sortie hier avec Bernard Landry et toute la gang de vieux socialistes, qui est évidemment que l'État prenne le contrôle de tout ça. Il faut aller à l'extrême opposé, c'est-à-dire il faut donner des droits aux citoyens. Et quand les citoyens auront des droits et un contrôle sur leur propriété et leur environnement, ils vont pas se tourner vers les artistes et les groupes de pression pour les protéger, parce qu'en ce moment, c'est le seul recours qu'on a. On a nationalisé les ressources, on a nationalisé l'environnement, et donc on nationalise le débat. Et alors, quand, comme simple citoyen, on n'a pas de recours juridique et on peut pas se défendre, bien, on s'organise avec des groupes qui ont pas nécessairement les bonnes solutions, mais défendre le monde ordinaire, ou en tout cas prétendre le défendre, contre une industrie qui, elle, bien souvent, est à coquiner avec le gouvernement pour faire de l'argent et considère les citoyens comme des problèmes là, à tasser. Donc, c'est ma solution, c'est ni celle des groupes de gauche et des groupes environnementalistes et des artistes et des chialeux qui veulent pas de développement, mais c'est pas celle non plus de ceux qui disent oui au développement et fuck l'environnement, fuck les citoyens, c'est une bande de chialeux, on a besoin de cet argent-là, il faut développer nos ressources, etc. Puis il n'y a pas de problème, les autres le font. Ça, je suis pas du tout d'accord avec ça.
C'est ça, parce que si le producteur agricole qui voyait ces gens-là arriver avait une cote sur chaque...
Il pourrait se demander si ça vaut la peine, il pourrait négocier. Il pourrait, puis c'est lui, mais c'est aussi ses voisins.
Exact.
Écoute, moi, là, j'ai déménagé à la campagne il y a un an et demi dans Bromissiquoi, à St. Bridges. On a un grand terrain qui est entouré d'un très grand champ. On a une vue sur le mont Pinacle et JP qui est en arrière de chez nous et le mont Sutton. Si dans le champ en arrière de chez moi, tout à coup arrivait un puits pour forer du gaz, et que là, tout à coup, j'ai du bruit, j'ai de la poussière, j'ai des camions qui passent devant chez nous, ma vue vers les montagnes pour laquelle j'ai payé un certain montant en achetant ma maison, parce que ça vaut quelque chose, une vue dans les cantons de l'Est, il n'y en a pas tant que ça, je l'ai plus, j'ai mon eau qui risque d'être contaminée, etc., et tout ce qu'on me dit, c'est, j'ai mon permis pour faire ça, fuck you, t'as rien à dire là-dessus, je suis désolé, mais j'irai manifester avec les artistes. Parce que j'ai pas de droit.
C'est ça, si on donnait le droit au propriétaire d'acheter lui-même là, les droits, au lieu que ce soit les compagnies minières ou gazières, là, peut-être que le producteur agricole, peut-être que c'est lui qui achèterait les droits, puis il dirait, écoutez, moi je vais vendre, je vais comme louer ma terre à ces gens-là. Là.
Parce qu'au départ, au Canada, le sol, on a le privilège, et je dis bien privilège, parce que ce privilège-là est bafoué de toutes sortes de façons. On a le privilège d'avoir un droit de propriété sur le sol au-dessus du sol lui-même et juste les quelques pieds au-dessus, mais le sous-sol appartient à la couronne, donc à l'État. Avant ça, c'était la couronne. Et donc, quand on donne des droits d'exploitation du sous-sol, nous, sur le sol, on n'a rien à dire. Et on n'a pas non plus la possibilité de poursuivre pour toutes sortes d'autres raisons. Je veux dire, si quelqu'un vient ici puis détruit ma qualité de vie et avec du bruit, de la poussière, toutes sortes de choses, j'ai pas de recours. Il y a des villages, des municipalités où tout à coup les exploitants sont débarqués et sans même avertir la municipalité que tout à coup ils arrivaient. Les municipalités ont aucun recours non plus. Le gouvernement Charest dit qu'il va probablement changer ça et donner un certain droit de regard aux municipalités, mais il est temps. Ça se peut pas que ça soit décidé dans des tours de bureaucrates à Québec où est-ce qu'il y a de l'exploitation et que les gens sur place n'aient aucun droit de regard là-dessus. Bref, il y a toutes sortes de choses qui fonctionnent pas dans ce système-là tel qu'il existe. Je pense pas que ça va nécessairement être réglé avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui vont sortir. Peut-être qu'ils vont régler les pires aspects, là. Ils vont atténuer les pires aspects, mais la solution, ça serait des droits de propriété réels et des droits, justement, de poursuivre quand on se fait attaquer. C'est comme je parlais au tout début que le libertarianisme s'est basé sur le principe de non-agression, Mais par exemple, la pollution, c'est une forme d'agression. Mm-hmm. Et depuis 100 ans, les gouvernements ont donné des droits de polluer à des entreprises parce que le lobbying était là. Puis bien souvent, c'était les mêmes personnes ou c'était leurs amis qui les finançaient, qui finançaient les partis politiques. Et donc, on donnait des droits de polluer à des entreprises et les citoyens n'avaient pas de recours. Ça, ça n'a rien à voir. C'est, et là, justement, il faut faire la différence entre la droite affairiste, là, qui est souvent défend cet état de fait-là en disant, ben là, c'est comme ça qu'on a de la richesse. De la mais d'un point de vue libertarien, non, c'est pas correct. La richesse et la production, c'est pas à n'importe quel prix et en bafouant les droits des gens. C'est au contraire dans le respect des droits de propriété et des droits individuels de tout le monde que ça doit se faire. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec les gens qui se disent à droite, là, puis qui embarquent là, à fond de train dans la défense de l'industrie des gaz de schiste, juste parce qu'il y a des artistes à gauche et une gang de vieux socialistes qui sont contre ça, alors ils se disent, ben là, nous autres, faut être pour ça. Ben, non. Il faut justement regarder comment ça pourrait fonctionner mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est justement parce que on n'a pas de droits individuels, de droits de propriété, que les gens n'ont pas le choix de se tourner vers des groupes d'opposition de gauche ou environnementaux pour les défendre, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de se défendre.
Ils ont des gens qui ont accès facilement à des micros.
Tout à fait, oui.
Effectivement.
Et qui peuvent mobiliser les populations, se faire entendre et faire reculer les gouvernements. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça a marché, regardez, là. Le gouvernement, l'été dernier, tout allait bien. Il y avait plein d'anciens libéraux qui avaient joint l'industrie pour faire du lobbying. C'était copain-copain, et là, on donnait des permis, etc. Puis tout à coup, les gens ont commencé à crier parce que se retrouvaient tout à coup, et c'est pas arrivé dans beaucoup d'endroits, mais il suffit que ça arrive dans quelques endroits, et en sachant que toute la vallée du Saint-Laurent est potentiellement l'endroit où ça va se produire. C'est pas dans le Grand Nord, là. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui se sont passées dans le Grand Nord, mais sauf qu'on s'en fout, il y a personne qui reste là. Mais quand ça se passe, peut-être dans votre village, là, vous réagissez autrement. Et ça, c'est arrivé en même temps qu'il y a eu d'autres débats. Ici, dans la région, il y avait un projet pour construire 6 gigantesques éoliennes dans le coin de Bedford, juste à 5 minutes de chez nous. Il y a eu toute une mobilisation régionale contre ça, parce que les gens se disent, si on a des immenses éoliennes là, qui font du bruit constant, etc., il y a toutes sortes de... Il y a peut-être des choses exagérées là-dedans, mais ça aussi, j'en veux pas, moi, une éolienne en arrière dans le champ chez nous qui me fait du bruit puis qui m'empêche de dormir et qui me détruit ma qualité de vie. Et pourquoi je devrais subir ça? Si on vient faire ça, je dis OK, mais donc, payer ma maison, payer moi une autre maison équivalente et mon déménagement et tout ça, et une compensation, puis là, je vais vouloir, si c'est si rentable de faire ça, là. Exactement. Mais sinon, je vais pas juste dire « Oh, pour le bien-être du Québec, je vais accepter de détruire ma qualité de vie. » Moi, c'est pas ça, le libertarien. C'est pas ça non plus une société où les droits de tout le monde sont protégés.
Comme dit Michel Hébert ici, un journaliste à Québec, il dit souvent que si les gaz de shale étaient en dessous de Westmount, on n'aurait pas de débat.
Non. Mais c'est justement le monde ordinaire... Ils n'ont pas nécessairement les contacts des gens de Westmount ou d'Outremont, et donc je pense que c'est pas pour rien si il y a 60% des Québécois là, qui ont répondu à l'appel des artistes, même si les artistes sont ultra chiants et n'ont pas vraiment de solution à ça autre que s'opposer et crier au loup. Mais ils ont raison quand même de le faire et de faire pression comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut faire ce débat-là. Et je trouve ça intéressant que le RLQ justement le fasse. C'est des débats fondamentaux. C'est ça. En apparence, c'est quelque chose de très spécialisé et c'est pas nécessairement un grand débat de société, là, l'exploitation d'un pays. Et pourtant, ça rejoint des grands principes et qui devraient justement être appliqués dans toute notre société, dans tous les secteurs, pas juste. Ce secteur-là, mais que l'on parle d'agriculture, de toutes sortes de choses, c'est vraiment des notions fondamentales qui, j'espère, vont être de mieux en mieux comprises. Et je pense qu'elles le sont. Je veux dire, quand j'ai écrit mon article là-dessus, il y a quelques mois, ça avait eu quand même pas mal d'écho. J'ai été le seul, je pense, à soulever la question des droits de propriété là-dedans.
Et d'ailleurs, on invite les gens à consulter les articles que tu produis sur le site Internet du Québécois Libre, qui est le québécoislibre.org. Puis aussi, on va inviter les gens à, évidemment, aller s'inscrire sur le site du Réseau Liberté Québec pour l'événement du 16 avril. Ça va être le moyen d'entendre aussi le discours de Martin par rapport à, justement, l'optique libertarienne dans l'exploitation des ressources naturelles. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'en vient prochainement, Martin, comme séminaire ou comme apparition sur des tribunes?
Non, je me fais inviter une fois de temps en temps ici et là, mais pour le moment, c'est tout ce qu'il y a. Il y a aussi le blog, il faut pas oublier. Il y a beaucoup plus de choses sur le blog du QL que sur le Québécois Libre, qui est juste publié une fois par mois. C'est le blog du QL.org. Et évidemment, il y a une fonction commentaire pour les gens qui veulent intervenir.
Et c'est le moyen, je pense, idéal pour avoir accès justement à des libertariens, à partager ces concepts-là et surtout à voir un peu les questions qui sont posées sur le blog. C'est très intéressant. Je vois que les gens prennent à cœur aussi les articles et les billets que tu affiches. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est un moyen là justement pour les libertariens qui se sentiraient seuls de peut-être là.
Il y a une communauté qui existe maintenant.
Oui.
Puis elle n'est pas juste présente sur le blog. Évidemment, sur le blog du QL, il y a d'autres blogs, il y a toutes sortes de choses. Puis c'est une communauté qui grossit. Et moi, je vous félicite en passant pour votre initiative. Ça fait longtemps que je dis qu'il faut qu'il y ait plus de monde et surtout des gens qui fassent autre chose, qui embarquent, parce que depuis longtemps, on était juste le même petit groupe qui était impliqué dans tout. Et là, je vois qu'il y a une multiplication d'initiatives et c'est vraiment extrêmement pour quelqu'un qui a été un peu seul pendant une décennie et plus, de voir là, la multiplication d'initiatives, c'est extrêmement encourageant.
Ben en tout cas, moi, je te rends l'appareil. Merci à toi d'avoir participé à l'émission ce soir. C'est apprécié parce que pour nous, c'est très important aussi qu'on puisse promouvoir le discours de gens comme toi, et je pense que tu es un ardent défenseur et vive le Québécois libre là, qui est là depuis fort longtemps et qui mérite d'ailleurs ce soir encore, je consultais les articles qui ont paru sur le Québécois libre qui sont encore d'actualité, donc tout est là et les gens vont être surpris de voir qu'il y a certains articles qui datent pas de l'an passé mais de 98.
Ouais, ça remonte à on l'a lancé en mars 98, donc ça va faire 13 ans.
Oui, donc on invite les gens à le consulter et à consulter le blog, donc merci à toi.
Et, merci à vous deux.
On va se croiser parce que le 16 avril, c'est sûr que l'équipe de Connaître la suite va être là, donc on a très hâte de t'entendre.
OK.
Merci. Merci.
Bonsoir.
Au revoir. Bye. Donc, très intéressant encore une fois. Je vous invite vraiment à consulter le site, là, le Québécois Libre. C'est vraiment intéressant.
On va le réinviter parce qu'il y a encore plein de questions,
oui.
C'est sûr. S'il veut revenir, là, on est bien ouvert.
Oui, oui, parce que tantôt, on a toujours des idées qui émergent justement de nos entretiens, des entrevues. Tantôt, il nous a parlé justement du temps qu'on peut perdre des fois à militer. Je pense qu'on devra se positionner ou se questionner par rapport à ça aussi, parce que à connaître la suite, on promouvoit des idéaux de liberté, de responsabilité, mais un jour, si on veut que ça change, alors je suis un peu attristé quand j'entends Martin qui nous dit que c'est un peu
des clics.
Et oui, et ça, hein? c'est un peu comme des efforts perdus de militer, ouais. Comme ça. Mmh. Et après ça, ben quand tu nous as ramené les exemples justement au niveau du ministère de l'Industrie, où c'était très difficile aussi de renverser la vapeur, même quand on a le pouvoir, je me dis.
C'est la machine. Le gros paquebot là, qui ne veut pas virer de bord.
Oui, c'est ça.
Vraiment
donc.
Ça. Puis moi, ce que j'aime beaucoup du blog, là, c'est sûr qu'il fallait, à un moment donné, il fallait laisser Martin partir. Mais ce que j'aime beaucoup de son blog, puis c'est pour ça qu'on va le réinviter un jour, c'est sûr, c'est que moi, ça fait depuis 2006 que je consulte son blog. Et quand un article te fait vraiment virer de bord, tu te dis, oh, tabarouette, j'avais jamais vu ça comme ça. Moi, c'est ça que j'adore d'un article ou d'un blog. Et il y a des exemples là, tout récents. C'était un article de Sylvie Dugas, donc de collaborateurs, dans le fond. Son article, c'était « Privatiser les océans pour protéger l'environnement ». Là, tu dis « Quoi? Privatiser l'environnement? » Mais là, tu lis ça, puis tu dis « Ouais, écoute, j'avais jamais pensé. » Dans le fond, en gros, qu'est-ce qu'il explique, c'est que si les zones de pêche étaient privatisées, ben, le propriétaire de cette zone de pêche-là voudrait pas épuiser sa ressource.
Ben
sinon, c'est son entreprise qui en meurt. Alors que quand c'est gouvernemental, ben, bof, pas grave, tout ça. J'aime ça qu'on me shake dans mes fondements. Puis ça, c'est l'exemple d'un article que vraiment, je me suis mis à penser. Je dis pas que je prône cette solution-là, mais quand même, là, ça rentre dans ton schéma de réflexion sur d'autres sujets là, qui peuvent être semblables. Donc, c'est ce qui me fait aimer des sites comme ça. Donc, le blog du QL.org, c'est vraiment intéressant.
Oui, puis en plus, avec cette version-là, blog, ben on peut mettre ses commentaires, argumenter avec d'autres personnes. Donc, c'est le fun aussi de confronter ses idées avec des gens qui soit partagent les mêmes allégeances ou des fois, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus éloigné par rapport à ces prises de position-là. Mais je pense que le débat et la place qu'on laissera au débat, ben tout le monde va en bénéficier parce que c'est à travers le débat aussi qu'on grandit, qu'on s'éveille. Je pense que quelque part, c'est louable. Et écoute, le Québécois libre a perduré. Il y a beaucoup de sites Internet, malheureusement, qui fonctionnent quelques mois. Et puis, on n'entend plus parler de ces sites-là. Mais le Québécois libre, je pense, est là depuis fort longtemps et est là pour rester encore fort longtemps.
Il y a des collaborateurs très solides, là, Gilles Guénette, entre autres, qui est aussi là-dessus, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'avais lu un article sur est-ce que les routes devraient être privées et non gouvernementales?
Ben oui.
Tu sais, quand tu te mets à réfléchir à ça, là, c'est vraiment bon. Sérieusement, s'il y en a qui découvrent le site ce soir, là, vraiment, allez faire un tour puis aller dans les archives. Ça va à peine
vous allez vous amuser.
C'est ça.
Allez, on fait une petite pause, mon Danny.
Ouais.
Parce que de l'autre côté, on parle encore à quelqu'un, bon, pas un habitué du show, mais à Jonathan Gagnon, qui va nous parler des, pas des mauvaises langues, mais des mensonges qu'on peut entendre au Québec par rapport justement au modèle qu'on fait référence. Et là, on parle de l'exploitation pétrolière, donc le modèle norvégien qui est souvent référé, mais là, on va vraiment démystifier peut-être certaines faussetés. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes à l'émission Connaître la suite sur les ondes du XM 172. Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. With essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed my lifestyle. Wow, I was living like a wild child, trapped on a short leash, paroled to police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance with me. Come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake. Oui, on est de retour à l'émission Connaître la suite, XM172. Je vous rappelle l'adresse courriel info@connaitrelasuite.com. Et effectivement aussi, il y a le Twitter Connaître Suite. Tout ça en un mot. Donc, c'est les façons de nous rejoindre et de s'informer par rapport à l'émission Connaître la suite. Et surtout, venez vous inscrire sur le site Internet à notre infolettre. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations à chaque émission, les invités, qu'est-ce qui s'en vient à l'émission. Donc, ne ratez pas ces occasions qu'on met à votre disposition. C'est la meilleure façon de nous rejoindre. Alors, Danny, je te laisse le micro. Présente-nous notre prochain invité.
Ben oui, puis c'est avec plaisir. C'était un ancien collaborateur à mon émission indépendante, individuelle, on pourrait dire. Donc, Jonathan Gagnon, bachelier en relations internationales de l'UQAM, passionné de l'Allemagne, de la Scandinavie. Il tient un blog francophone qui a pour nom « Trop penser ». Ça donne un blog où il traduit en français beaucoup de trucs politiques sur ces pays-là. Et on peut le suivre sur Twitter en faisant le DTZB. Jonathan Gagnon, bonjour.
Bonsoir, Guckfeld.
Bonsoir. C'est en allemand, ça?
Non, c'est en norvégien.
Norvégien, toi, c'est ça, tu t'adaptes, hein, c'est ça?
C'est ça, oui.
C'est bon. Jonathan, un petit texte qui m'a fait réagir cette semaine, puis c'est pour ça qu'on a pensé t'inviter. Tu parles cette semaine un peu, ton titre d'article s'appelle, pour être précis, « Pétrole norvégien derrière les lunettes roses ». Donc, tu as réagi à certains... un certain spin, qu'on pourrait dire, là, une certaine tendance dans les propos présentement sur dans les médias québécois, où est-ce que, bon, on dirait que le modèle norvégien de ce côté-là, ce serait la panacée, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. Donc, toi, c'est là-dessus que tu t'es basé. Donc, qu'est-ce qu'on entend présentement dans nos médias québécois là, par rapport à la gestion du pétrole en Norvège?
Écoute, si on peut commencer par un petit coup, là, tu parlais des gaz de schiste avec Martin tantôt. Écoute, en Norvège, on discute dans les médias norvégiens, on parle des puits de la vallée du Saint-Laurent, donc vous avez des villages québécois qui, des gens de Québec, de Montréal, et des gens qui sont plus loin que ces petites villes-là ne connaissent pas et qui sont dans les médias norvégiens depuis quelques mois. Pourquoi? Ben parce que la compagnie Keter Energy, alors s'est cotée à la bourse d'Oslo. Et il y a beaucoup d'investisseurs norvégiens, que ce soit privés ou encore institutionnels, qui ont de l'argent dans cette compagnie-là. Et cette compagnie-là, bien sûr, travaille beaucoup dans la vallée du Saint-Laurent. On en a parlé souvent.
Pour les gaz de shale.
Oui, c'est ça, monsieur. Et ben donc, finalement, écoute, nous, on nous présente dans les médias un modèle où... Hey, non, mais regardez, c'est-tu pas beau, là, ils gardent leur argent. Finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte, hein? Les compagnies étrangères qu'on dénonce, là, ben, les Norvégiens, ils font de l'argent avec ça. Les Norvégiens font de l'argent avec notre exploration de gaz qu'on veut pas donner aux étrangers. Alors qu'on vende leur modèle. C'est assez savoureux comme ironie, quand même, là. Et puis c'est pas la première fois finalement que la Norvège investit au Canada, parce que State Oil est très présente en Alberta, et dernièrement ils ont même écopé d'une amende assez salée, là, je pense c'est 60 millions, parce qu'il y a 19 puits où il y a eu des problèmes avec l'approvisionnement d'eau. Et qu'est-ce qu'on a dit dans les médias norvégiens? State Oil a dit aux médias norvégiens, écoutez, au Canada, les règles sur l'utilisation de l'eau potable dans l'industrie sont extrêmement sévères et nous, c'est dans notre intérêt de s'y conformer. Et donc, on va collaborer avec les autorités de l'Alberta. Mmh. Hein? C'est comme, quand est-ce hein, qu'on entend parler au Québec que l'Alberta est responsable? Quand est-ce qu'il y a des contrôles? Mais non, supposément que c'est le Far West, là. Tu creuses un trou, puis tu ramasses le pétrole, là, puis si tu tues trois canards à côté, là, ben c'est comme, c'est presque, t'as presque une médaille, parce que c'est ça qu'il faut faire, hein, tu sais. Donc, finalement, tu sais, on a ce modèle que les Léopold Lauzon, les Bernard Landry, pour ne nommer que des gens côté plus politique un peu, c'est on peut aussi parler des gens dans les médias, mais finalement, on se rend compte que ce modèle-là fait de l'argent à partir de chez nous, ces ressources-là qu'on ne veut pas donner à l'étranger. Donc, moi, je trouve ça très, très fabuleux comme ironie. Et puis, à quelque part, mais ça remet un petit peu sur le nez ou des apôtres de ce modèle-là que finalement, ça fonctionne pas.
Dis-moi, Jonathan, comment tu peux conclure que ces gens-là ont... ont peut-être une mauvaise information concernant justement le modèle norvégien. Comment une Anne-Marie Dussault, un Benoît Dutrisac, un Gérald Filion, tous ces gens-là, comment ça qu'ils ne se questionnent pas vraiment sur le modèle à aller voir ces détails-là justement d'exploitation étrangère? Comment tu peux attribuer ça? C'est-tu parce que c'est méconnu? Les gens lisent en surface? Ce que tu nous apprends ce soir, est-ce que c'est disponible? C'est facilement retraçable?
Moi, je vois pas de problème. C'est pas caché, là. Je veux dire, tu sais, puis moi, ben écoute, moi, quand je comprends pas Google Translate, hein, je veux dire, de nos jours, hein, c'est assez facile à trouver. D'ailleurs, on en a parlé aujourd'hui dans l'Antagoniste, il y avait un très bon billet là-dessus, sur justement un peu là qu'est-ce qui s'est parlé là-dedans. Bon, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est quand on admire quelque chose, on prend peut-être qu'est-ce qu'on aime, on prend aussi souviens-toi qu'est-ce qu'on a parlé le mois dernier à propos de la Suède, hein.
C'est un peu la même chose.
D'ailleurs, c'est le voisin, hein, donc on reste à peu près dans les mêmes paramètres. Écoute, Anne-Marie Dussault, par exemple, elle nous parle du Fonds des générations de la Norvège. OK, quelque chose qui est également Gérald Filion a parlé. Là, les Norvégiens font des milliards avec ça. Écoute, c'est vrai, la Norvège a un fonds. Alors, l'argent du pétrole est placé dans un fonds que la presse a été appelée socialement responsable dans son dans le coin de la Saint-Valentin, là. OK. Alors, où est-ce qu'on place tous les revenus du pétrole que l'État engage? OK. Ça, c'est une valeur de pratiquement 500 milliards de dollars, en date de ce mois-ci.
500 milliards?
Oui.
Aïe aïe.
Alors, ça veut dire, ben, divise ça par 4,5 millions de Norvégiens, ça fait quand même un bon coussin.
Ouais.
Le gouvernement norvégien ne peut pas, la Norvège met cet argent-là de côté pour s'en servir pour financer les services sociaux et surtout les pensions, mais pas maintenant. Pour quand il n'y aura plus de pétrole et qu'il faudra préparer, et qu'il faudra finalement maintenir la prospérité de la Norvège, le niveau de vie des Norvégiens, là. Donc, c'est vraiment sur une optique de 60 ans.
Et eux autres, ils ont-tu perdu 33% de leur valeur, comme la caisse de dépôt ici?
Attends, monsieur, je te sors ça, je l'ai ici devant moi, là. Alors, 2008, le fonds a augmenté de 12%, et puis 2009, 13%.
Ah, ça monte quand même, eux autres.
Oui.
Ah!
C'est drôle. Ils ont pas acheté des actions, peut-être, dans le... C'est quoi, les
du papiers? PCA.
C'est ça.
Ça, écoute, ça, c'est un fonds que la gauche aime bien citer aussi parce que c'est un fonds qu'on dit éthique. Alors, eux, les compagnies d'armement, les compagnies qui polluent, ils investissent pas là-dedans. Bon, ce qui est un peu ironique, c'est qu'ils ont de l'argent dans cette... C'est que c'est State Oil qui, de temps en temps, se fait taper sur les doigts pour ses investissements. Pas juste au Canada, là, mais dans certains, même en Norvège, il y a déjà eu des controverses là-dessus.
C'est ça, ils sont dans les sables bitumineux en plus, donc un fonds éthique qui est dans les sables bitumineux en partie.
En Norvège, c'est très controversé.
Ouais.
Et ça, le premier ministre Jens Stoltenberg, qui est un social-démocrate, un rouge, qui a dit non, on peut pas se passer de l'argent que State Oil investit au Canada. Donc Greenpeace, allez bouffer. Et d'ailleurs, Greenpeace Norvège a des actions dans State Oil.
Ah oui?
Oui, parce que Greenpeace dit qu'il n'y a pas plus une grosse influence sur une entreprise qui est dans son capital, donc d'être actionnaire de celle-là.
Wow. Comment qu'on dit Steven Guilbeault en norvégien?
Et donc, eux, ils possèdent des actions et parce qu'ils se disent que c'est leur vote à l'Assemblée des actionnaires qui va faire sortir ça. Mais pourquoi je te parle d'actions quand on nous dit toujours que la State Oil, hein, ça le dit, State Oil, le pétrole d'État, hein, c'est parce que l'État norvégien possède 51% des actions du secteur pétrolier gazier. Bon, la State Oil, précisément, parce qu'il y a plus qu'une entreprise qui constitue ce secteur, mais si tu prends juste la State Oil, c'est 65%. Mais bon, si tu prends le secteur, alors c'est 51% de l'État. Et le 49% est détenu par des entreprises par des investisseurs de partout. ces entreprises-là sont à la bourse d'Oslo et à la bourse de New York. Donc, il y a des méchants Américains qui mettent de l'argent là-dedans. En plus, c'est pas juste les Norvégiens qui font de l'argent là-dessus. Hein? Donc, puis on se souvient, hein, quand Mario Dumont a proposé il y a quelques années de privatiser 10% du capital d'Hydro-Québec, hein, pour faire calmer la panique un petit peu là à bord, là, il avait dit qu'on pourrait réserver ça aux Québécois. Les Norvégiens, eux, non. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est que ton chèque passe quand tu vas payer ça chez courtier.
Okay.
Et question de fonds des générations, écoute, quand Marie Dussault parle de fonds de génération, c'est quand même une bonne optique. Je te parlais de 60%, je te parlais d'une optique de 60 ans. Écoute, il y a seulement 4% du budget norvégien qui peut provenir de cet argent-là chaque année.
OK, ils ont mis un plafond pour éviter les gaspillages, les dérapages.
Oui, c'est ça.
OK.
Alors, malgré que finalement, le pétrole, c'est 25% de l'économie de la Norvège, considérant que l'État est le premier investisseur, il pourrait s'attendre à ramasser beaucoup plus d'argent que ça. Non, ça s'en va tout dans le compte d'épargne. Et puis, il y a seulement 4% qui peut être utilisé, ça. Okay. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? OK. La Norvège n'a pas le modèle, j'aurais envie de dire, iranien, là, où est-ce qu'on vend le gaz à 25 cents le litre. Non, pas du tout. Un litre d'essence en Norvège se vend à peu près 2 à 3 $. OK. Mm-hmm. 63% du litre d'essence en Norvège est constitué de taxes.
Okay.
Et pourtant, là... C'est le gouvernement, c'est à nous, là, tu sais, hein, que comme ici, on dit que l'électricité, quand on ouvre la lumière, hein, il paraît que c'est bon. Ensuite, on parle, écoute, dans le système de santé en Norvège, il y a des listes d'attente de plusieurs semaines. Il y a des gens qui vont se faire soigner à l'étranger parce que on ne veut pas attendre. Le deuxième parti politique de Norvège, c'est le Fremskrittspartiet, c'est le FRP, Siv Jensen. Ce sont des gens... qui ont des allégeances très, très, passablement libertariennes, où on dit qu'il faut dégraisser l'État, il faut baisser les taxes et tout ça. Parce que les Norvégiens paient des taxes comme les Suédois. Donc, on parle de jusqu'à 50% du revenu pour tout le monde, une taxe de vente d'une vingtaine de pourcents. Quand je te disais que combien combien l'essence est chère. Donc, la vie en Norvège est très chère parce que, justement, le gouvernement se paye sur tout. Et, le pétrole, lui, va dans le bas de laine.
Okay. Mais, ce que tu es en train de nous parler comme modèle, c'est pas nécessairement un modèle qui ferait le bonheur des Québécois, là.
Non, parce qu'écoute, si on prend, par exemple, l'électricité, on va comparer.
C'est ça.
OK. L'électricité au Québec, on nous dit que c'est pratiquement subventionné quand ils nous le vendent parce que il paraît que c'est les dividendes que les Québécois ont à posséder Hydro-Québec. Bon. Et c'est vrai que quand on compare avec le reste de l'Amérique, les prix de l'électricité sont beaucoup plus bas au Québec. Bon, on peut argumenter que ça l'incite au gaspillage, mais bon, Hydro-Québec se vante vraiment de nous vendre d'énergie le moins cher possible. En Norvège, tu ne verras jamais aucune pub de State Oil nous parler qu'ils vendent l'essence le moins cher possible parce qu'elle est au Norvégien. Non. Et pour rester dans l'électricité, la Norvège a un marché ouvert de l'électricité avec des contrats variables, abolition du monopole d'une seule compagnie. C'est sûr que le secteur public est encore présent, que ce soit l'État central qui a des actions dans certaines compagnies ou encore des compagnies publiques régionales qui appartiennent à des municipalités. Mais on parle quand même d'un marché ouvert à la concurrence avec des tarifs qui varient de jour en jour et des tarifs qui sont... des factures d'électricité en Norvège qui sont assez chères. Cet hiver, il a fait froid. Et en plus, l'année passée, les réservoirs hydroélectriques sont bas en Norvège et les Suédois ont baissé la production des centrales nucléaires à cause qu'ils devaient faire plusieurs réparations en même temps. Et là, la demande reste pareille, l'offre baisse. Et en Norvège, le prix de l'électricité monte. C'est comme ça que le système de marché fonctionne. Et il y a eu plusieurs plaintes décembre, janvier, parce que là, il faisait froid, les gens chauffaient beaucoup. Et c'est un un peu le même principe que ces temps-ci, on entend avec l'essence à 1,33. Hein, le gouvernement ne viendra pas dire que c'est trop cher parce qu'il est très content d'empocher la TPS, la TVQ et les taxes qui viennent avec ça. Ben, c'est un peu le même principe en Norvège. Il fait froid, on chauffe, le gouvernement empoche. Donc, c'est comptez pas sur lui pour qu'il fasse une déclaration pour dire « Ah ben là, les compagnies d'électricité qui vous chargent 3 000$ par mois pour chauffer votre maison, là, ben là, c'est une gang de rapaces. » Non, ça marche pas comme ça.
Oui, puis tu nous fais aussi dans ton texte, tu nous fais une comparaison entre l'état des finances publiques de la Norvège et celle de l'Alberta. On voit une certaine différence.
Alors, on a deux économies pétrolières. Alors, l'Alberta, on a entendu parler, bon, que les gens ne payent plus de taxes parce que, tout simplement, les redevances de pétrole qui vont dans le trésor albertain, finalement, financent tout le roulement du gouvernement au complet. Donc, il n'y a plus d'impôts, il y a plus d'impôts particuliers, il n'y a plus de taxes de vente. Et si je me souviens bien, là, c'est vrai, peut-être avec la récession, ça l'avait changé, mais je me souviens que quand c'était Ralph Klein aussi, on envoyait des chèques aux gens quand on avait dégagé des surplus pour que finalement le surplus budgétaire soit donné aux citoyens. La Norvège, d'abord, bon, j'ai parlé de la fiscalité. Bon, j'en ai peut-être parlé trop vite, Danny, mais bon, c'est quand on disait que bon, c'est un pays où les gens sont très taxés. Mais en plus de ça, la Norvège, elle traîne une dette. Alors, on parle... Moi, j'avais trouvé 43%. Antagoniste arrive aujourd'hui avec 56. Possiblement que ça inclut les régions. Okay. Bon, ça peut expliquer la différence de chiffres. Mm-hmm. Mais, écoute, pour un PIB entre l'Alberta et la Norvège, qui est presque semblable, pour une population qui a 1 million près, c'est la même chose, mm-hmm. On a quand même, un bon endettement. Alors, pendant que la Norvège, finalement, met l'argent dans son bas de laine et ne paye pas ses dettes, mais on paye de l'intérêt sur une dette que l'exemple albertain le démontre, on aurait pu payer d'une claque avec tout ça. Mmh.
C'est un peu le principe ici, hein, le Fonds des générations au Québec, où est-ce qu'on met de l'argent d'un compte et on laisse la dette monter. Je ne comprends pas le principe un peu. Là.
Alors que la vraie solidarité intergénérationnelle, ce serait de payer la dette pour ne pas la laisser à l'autre compagnie.
Exact. Exactement.
Comme dit le Parti social-démocrate allemand, l'endettement de l'État est asocial.
Oh, c'est bon ça. Ça finirait bien une chronique, ça. Hey, tu nous quittes la semaine prochaine, ça a l'air. Veux-tu en parler? Ou...
Ben écoute, ben mercredi, je prends l'avion pour Miami. Je vais travailler sur un paquebot de Carnival.
Donc, on veut vous servir du fait que tu parles de quoi? 4, 5, 6 langues?
C'est ça.
Moi,
je faisais des blagues avec Élie sur Twitter. J'ai dit, moi, avec moi, c'est un 4 pour 1. Parce que il y a beaucoup de gens. Depuis que je parle de ça, tout le monde me dit, oh, quand on va là, personne parle français. Bon, ben là, je dis, avec moi, ça va être correct. Ça va être un 4 pour 1.
C'est bon. Fait qu'on peut te suivre sur Twitter, je le répète. Puis si vous regardez le dernier tweet de Jonathan, je crois que tu es en train d'annoncer en norvégien que tu vas être à l'émission dans 2 secondes, c'est ça?
C'est ça.
Dis-nous donc ça.
Snacker, ça veut dire parler. Donc, ça veut dire je parle à propos de la Norvège avec Steve et Danny à connaître la suite.
Excellent. Allez voir ça. Donc, abonnez-vous à son Twitter. Sinon, le nom de ton blog, passez par le Twitter, c'est plus simple parce que c'est pas prononçable.
Il y a le lien dessus.
Exact. C'est beaucoup plus simple. Eh bien, bon voyage, Jonathan.
Je ne sais pas en voyage, mais on va travailler.
Excusez.
Merci. Et de toute manière, là, vous savez que même si je ne passe pas 12 heures par jour sur Internet, comme je fais présentement certaines journées, ben je vais quand même vous donner signe de vie assez régulièrement.
Hey, en passant, on a une ligne à 800, fait que tu es toujours le bienvenu pour nous appeler.
Bon, ben, c'est bon.
Salut.
Donc, salut, merci.
Bye-bye.
Toujours intéressant. Fait que finalement, on se rend compte que le modèle qu'on veut nous acheter encore, nous vendre plutôt, c'est peut-être pas le modèle à répliquer. Mm. Puis on a un ici au Canada. Mm. Ben, sans dire que, je veux dire, c'est le modèle parfait. Il y a sûrement des leçons à tirer de l'Alberta. Puis je sais pas pourquoi qu'au Québec, on s'entête, à les faire passer pour des mauvais garnements.
Mais ce qui est spécial, moi, je trouve vraiment en Norvège, c'est ça, c'est qu'ils ont des revenus à plein, en masse, mais ils ont quand même une certaine dette de, quand on parle de 50% de PIB, c'est sûr qu'on est loin de ça au Québec, mais c'est quand même gros, des grosses taxes, ils paient l'essence cher. On peut se poser des questions sur le modèle d'interventionnisme étatique là, qu'on voit
oui,
ça.
Oui, puis ta comparaison avec ce qu'on fait au Canada actuellement avec le fonds intergénérationnel.
Des générations, c'est au
ouais,
Québec.
C'est ça. C'est au Québec, plutôt. C'est un peu inconcevable là, quand tu te dis qu'on se doit, puis pas à peu près, puis on laisse aller les intérêts sur ces dettes-là. Écoutez, s'il vous plaît, on applique là, tout ce qu'on peut retrouver au fond d'une bourse ou d'un budget, on l'applique à la dette, là.
C'est ça, ben en plus, le fonds des générations, dans le fond, ils investissent cet argent-là en pensant qu'elle va croître et ils ont réussi à perdre de l'argent avec le fonds des générations. Donc, ils ont mis tant de millions et ils en ont perdu. Donc, bravo, hein, la stratégie marche bien.
Donc, on fait nos petites pauses.
Ouais.
Une dernière avant la fin de l'émission et on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes sur les ondes du XM 172. Ça fait toujours du bien. Une petite pause comme ça. Pour reprendre nos esprits, il faut se mettre à chaque fois. C'est comme un épisode dans la même émission qui déroule.
Ouais.
Plusieurs épisodes plutôt. Et là, enfin, on va discuter du choix du nom de l'émission, connaître la suite.
Ouais, oui, on a oublié ça.
Ouais, on n'a pas fait la mise en contexte.
À l'émission 2, on aurait dû faire ça, on l'a complètement oublié.
Ouais.
Ouais.
C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Puis il y a une belle histoire derrière ça.
Ben oui.
Simple. Mais intéressant, je pense que les gens, faut qu'on vous raconte ça, moi et Danny.
Et les oreilles pas habituées au rock pesant, vous allez avoir quelques secondes que ça va faire mal aux oreilles, mais
c'est
faut
du
vous
rock,
expliquer.
Du rock québécois.
Ah oui, en plus.
Oui. Puis là-dessus, je pense qu'on avait eu un flash. Ça arrive des fois qu'on a quasiment des flashs, moi et toi, en même temps.
Ouais. On va voir si tu vas le compter de la même manière, comme moi je me rappelle. Là.
Ah, peut-être, ouais, peut-être j'ai une interprétation différente.
On va voir.
Parce qu'il faut remonter, il y a de cela 2 ans,
ouais.
Parce qu'effectivement, on est actuellement en 2011, mais les balbutiements, non, ça j'ai toujours
les premiers balbutiements.
Balbutiements. En tout cas,
balbutiements.
Ça c'est.
On va le refaire au montage.
Ouais, c'est ça. Il y a quelques mots comme ça dans mon vocabulaire. Donc,
c'est pas grave. C'est comme moi la semaine passée. Comme Wild Rose.
Ouais, c'est ça. Ou les sables butimineux. Bref, connaître la suite, en fin de compte, lorsqu'on a établi ensemble, moi et Danny, qu'on voulait, on voulait absolument mettre sur pied un organisme à but non lucratif, il y avait un nom. Hein, il y avait un nom qu'on devait choisir. Puis, moi, en tout cas, le flash est venu justement en faisant le... Moi, c'était en faisant le ménage, en faisant le classement chez moi. Que je suis tombé comme ça sur une vieille cassette que j'avais. Oui. C'est pas ça que je t'avais raconté? Tu me fais des signes de tête?
Ouais.
Non?
Mais c'est pas ce que je me rappelle, en tout cas.
Non, ben c'est comme ça, en tout cas. C'est de là que l'idée est partie. Parce que en même temps, c'était... Je voulais parler du concept de d'en apprendre davantage sur la suite des événements. Pour moi, c'était clair qu'on vivait dans un épisode, un malheureux épisode de la vie. Parce que, évidemment, pour moi, tout le marasme qu'il y avait à ce moment-là faisait en sorte que je me disais il faut voir plus loin, il faut voir ce qui s'en vient. Et pour moi, c'était de choisir un nom qui allait permettre de justement rallier le moment présent et le futur. Et pour moi, c'est ça. Quand j'ai vu ça et j'ai pensé à TSPC, qui est un groupe québécois, ben connaître la suite à ce moment-là.
Ça avait commencé avant ça.
Avant ça?
Ben oui. Ça avait demandé, parce que j'avais arrêté de faire mon émission de radio sur le web et j'avais pensé à peut-être un retour et je t'avais demandé, est-ce que t'aurais pas la toune connaître la suite
oui,
par hasard?
Oui, c'est vrai.
Et là, tu m'avais dit, pourquoi tu veux faire ça? Et je t'avais pas répondu. Vraiment, je dis non pour rien, mais j'avais un plan de retour avec un nouveau nom.
Ah, mais c'est pour
nom.
Ça, donc, moi, je pensais que j'avais fait le ménage, mais en fin de compte, c'est parce que tu m'avais demandé de chercher
exact,
pour
ça. Exact, donc, tu vois, si tu l'avais, parce qu'il est très, très difficile à trouver
cet
album-là, là, encore aujourd'hui, puis tout ça. Et là, c'est là que tu as commencé à faire ton ménage, et qu'on a commencé à faire l'émission sur le web, puis là, on se cherchait un nom.
Tu vois, c'est ce bout-là qui me manquait.
C'est ça.
Pourquoi
donc,
j'avais fait
près,
le ménage?
Ouais, fait qu'il y avait à peu près 2-3 semaines entre ces deux événements-là.
Ouais, c'est ça.
Et c'est là que là, tu te rappelais que je t'avais demandé cette toune-là, puis quand on a parlé un peu des changements ou des choses qu'on voulait faire, on a comme allumé presque en même temps
c'est
sur la toune que tu m'as demandé l'autre
donc,
fois.
Donc, c'était subliminal ce que tu m'avais demandé.
Ouais.
Tu m'as conditionné un peu.
Ouais.
Et parce que quand j'ai mis la main finalement sur cet album-là, parce qu'il a fallu que je la cherche, t'as pas l'album de TSPC.
Non, sur le bord, là.
Dans ton char.
Pas en 2009.
Non, ça date d'une certaine époque.
Exact.
Et pour moi, c'est ça le lien quand justement on a décidé de démarrer l'organisme puis l'émission à l'époque qu'on a appelé La Suite. À ce moment-là, il m'est venu directement le flash là, de dire connaître la suite.
Ouais.
Et là, la chanson, parce que sur l'album, il y a une pièce qui s'appelle Connaître la suite.
Mm-hmm.
Et on a aussi la suite à Connaître la suite
exact.
Sur l'album.
Sur l'album aussi.
Sur l'album aussi. Donc, et d'où est venue l'émission La Suite qui faisait suite à Connaître la suite, qui était l'organisme à but non lucratif que moi et Danny, on voulait mettre sur pied.
Mm-hmm.
D'ailleurs, on a donné une entrevue cette semaine
qui est peut-être en train de passer présentement.
Oui, c'est ça, à l'émission En direct de nulle part, qui est diffusée sur XM. Donc, j'ai appris cette semaine que c'est les mardis à 20h. Non, les
dimanches à 18h.
À 22h et les mardis à 20h ou à 18h. Finalement, non.
Non, en tout cas, c'est pas grave.
On va s'informer.
Vous irez voir sur ddnp.net. Là. Ce soir, on a fait une entrevue préenregistrée hier.
C'est ça.
Et dans le fond, on parle un peu des départs de l'émission. Là. Vous pourrez écouter ça aussi. C'est une émission à mettre dans votre liste, dans votre MP3.
Oui,
MP3, c'est sûr et certain.
Définitivement. Donc, on écoute ça un extrait, mon Danny, de connaître la suite.
Écoutez les paroles, vous allez comprendre.
Vous allez comprendre.
Ben, vous allez faire un lien.
Donc, c'était l'extrait de Connaître la suite. Je pense que les gens ont peut-être reconnu Connaître la suite. Ça avait connu un certain succès sur les radios alternatives ici dans la région de Québec. Choix FM avait passé quelques reprises l'émission Connaître la suite. Musique Plus aussi.
Oui, Musique Plus. Moi, j'avais connu ça par Musique Plus puis par une station à la quai de chemin que Steve Duchesne.
Dufresne.
Moi, je l'avais connu comme ça. Là. Puis, dans les paroles, là, si on avait continué la tune, c'est parce qu'on ne voulait pas la jouer au complet. Mais eux, ils parlent un petit peu de... On aimerait peut-être connaître la suite, passer à d'autres choses dans le thème de la musique québécoise.
Ouais, c'est
la
ça.
Musique chansonnier. Ils venaient juste d'avoir un comeback de Beau Dommage, puis tout ça. Donc, ils se disaient, on peut-tu passer à autre chose concernant la musique? Nous, on l'a pris d'une autre manière.
Ouais.
C'est... Écoute, là, on est dans quoi? On approche les 50 ans d'après la Révolution tranquille. L'étatisme est en train de nous prouver que ça marche pas. En tout cas, pas à la façon québécoise. Ça marche pas, l'étatisme. Donc, on peut-tu passer à autre chose? On peut-tu connaître la suite là-dessus? Et c'est le fun, hein? Joanne Marcotte, qui était à l'émission il y a 2 semaines, nous parle de nous dans son blog et elle a compris exactement ce qu'on veut dire par le titre. Elle dit, j'aime bien le titre, connaître la suite. Cela sous-entend que nous n'en sommes plus au constat qu'il faut maintenant passer à l'action, reconstruire et connaître la suite.
Effectivement, parce que pour nous, c'est clair que, et je suis d'accord avec bien des gens qui font, et tant qu'à moi, peut-être à outrance des fois des constats, et j'en ai assez du constat. Je pense que tout le monde, maintenant, connaît les conclusions. Le constat est clair pour tous et chacun. Il faut passer à l'action. Mmh. C'est sûr que nous, et quand je dis nous, en tout cas, moi, en fin de compte, en étant à l'émission Connaître la suite, ce que je veux faire par ma contribution, c'est justement, je me dis, si on peut promouvoir, de un, les gens qui veulent... tout à l'heure, on a eu des exemples là, avec Martin Mas. Il nous a donné des exemples de mesures, de principes à mettre en place. Donc, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Il faut entendre ces gens-là qui ont justement des idéaux à nous partager, mais en plus des concepts appliqués. Parce que demain, il va falloir les faire, ces réformes-là. Il va falloir les faire. Et puis, si on les fait pas, ben c'est nous. Et si on ne connaît pas la suite, ben je pense que la suite va s'occuper de nous. Hein, ouais. Parce que le gouvernement... contrôle actuellement un peu toutes les sphères de la société québécoise ou canadienne. Et si nous, on ne s'implique pas davantage pour connaître la suite, et je dirais même la créer, cette suite-là, ça ira pas bien.
C'est ça, parce que je t'avais déjà raconté que le débat sur le vieillissement de la population, on va manquer de travailleurs pour payer les programmes sociaux, puis ça, là, j'avais ça au cégep, ces discussions-là, sur l'heure du dîner, là, puis j'étais au cégep de 89 à 91. Toujours ben pas. Le système de santé, Bourassa parlait de faire les réformes pour que l'accessibilité puis que les temps d'urgence baissent. Dans le temps que c'était Robert Bourassa, dans sa deuxième venue comme premier ministre, c'est pas des débats nouveaux, là.
Non.
C'est ça que ça a pas évolué, puis tout ça. Donc, c'est un peu ça. On peut-tu la connaître la suite? L'heure, elle n'est plus au constat. Et il faut qu'en arriver à des solutions, puis il faut que des gens qui pensent un peu comme nous, et je vous le dis, hein, sur des mêmes sujets, moi et Steve, on peut penser différemment.
Oui, effectivement.
Mais on se considère comme étant à droite du côté du spectre politique, là, côté de ce côté-là. On veut moins d'État, plus de responsabilité, moins de gaspillage. Mais l'affaire, c'est que nous, notre façon qu'on a trouvée au départ, c'était l'OBNL. Et dans l'OBNL, on disait on veut occuper de l'espace média. Donc là, en faisant le show comme ça, avec une antenne sérieuse là, comme XM, c'est un des bons moyens. Là. C'est que là, on a dit on va s'occuper de l'espace média avec un show qui est sérieux de ce côté-là. Des fois, la gauche a tendance à dire « Ouais, mais ces propos-là sont discutés par la radio poubelle qui appelle. » Nous, on veut pas aller de ce côté-là, même si moi, je considère pas ça comme de la radio poubelle.
Non.
Le nom, je l'aime pas, mais on veut pas offrir le même show qu'on entend beaucoup ici à Québec. C'est pas ce type de show-là qu'on veut. On veut de longues entrevues, des personnalités connues ou pas qui peuvent nous amener des nouvelles façons de voir des choses puis tout ça. Donc, c'est une façon différente. Puis connaître la suite, ben c'est ça. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, justement, on occupe un espace média dans une case horaire, peut-être, qui est pas... qui peut paraître bizarre pour certains, mais non. Finalement, on fait des demandes d'entrevue, puis ça va bien. On pensait avoir des obstacles de ce côté-là, puis ça va bien.
Ça se déroule bien. Date, là, puis justement, comme tu dis, c'est d'offrir un spectre plus complet, parce que celui de gauche, il est amplement diffusé. Entendu.
C'est ça.
Donc, est-ce qu'on peut offrir le spectre, au moins, juste offrir le spectre? À partir de là, les gens, quand ils auront le spectre complet, la gauche et la droite, ils feront les choix qui s'imposent, ils prendront les décisions qui s'imposent. Là, assez souvent, et nous, on se sentait privés de ce débat-là public, ou je dirais même de cette tribune publique, où on pouvait justement véhiculer des concepts comme ça sur les libertariens, sur la droite, sur les libertés, la responsabilité. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'avènement de l'Internet nous facilite les choses, mais il reste que la radio est là aussi comme un média écrit, comme un média télévisuel. Donc, c'est très important que ce soit la radio, la télé, l'Internet, parce que les gens, des fois, disent « Oui, on a l'Internet maintenant, mais c'est pas tout le monde qui a fait le virage vers l'Internet. »
Non, vraiment pas.
Il y a des gens encore qui écoutent la radio, il y a beaucoup de gens qui écoutent encore la télé. Donc, il faut que chacun de ces médias-là s'assure d'offrir le spectre. Puis, comme le disait tantôt Martin Masse, il y a maintenant des percées qui se font, puis j'en suis satisfait parce que on le voit au Journal de Montréal, on commence à avoir des chroniqueurs qui s'identifient de façon bien précise, qui prennent le camp justement du spectre opposé, sans écœurer les gens avec tout ça, mais je pense que c'est bien dosé. Il faut avoir ce balancier-là parce que c'est sain. Et ce qui a privé le Québec, on le répète, et Éric Duhaime s'en fait le porte-parole, on a monopolisé le débat au Québec par rapport à la souveraineté. On n'a pas eu ce débat sain gauche-droite de débattre justement des idées de concepts liés à la liberté, à la responsabilisation, à moins d'État dans nos vies. Donc, il faut en 2011 avoir cette fenêtre-là et connaître la suite. Je pense que c'est notre mission première. Et à quelque part, on s'était donné la même mission, en quelque sorte, avec l'OBNL, qu'on n'a jamais mis sur pied pour plusieurs facteurs, dont celui de l'arrivée du réseau Liberté Québec, qui a comblé cet espace-là.
La grosse raison, on n'a pas à se cacher de tout ça, c'est qu'on cherchait un porte-parole vraiment là, qui pourrait vraiment bien passer dans les médias, puis tout ça. Puis c'est là que ça a échappé un peu.
Oui.
Et comme on l'a expliqué hier, là, s'il y en a qui. Je vous invite à aller écouter l'entrevue sur Indique de nulle part, là, qu'on a fait hier, préenregistrée. C'est justement ça, c'est de dire. La RLQ a tellement bien réussi sa percée médiatique que de continuer, nous, de notre bord avec l'OBNL, c'était plus la solution. Ça nous a forcé à réfléchir, de dire on peut pas abandonner, par contre, ce qu'on a réfléchi déjà depuis 2 ans à cause de l'arrivée du RLQ.
Non.
On veut devenir des gens on s'associe d'une manière en les invitant souvent à l'émission. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va avoir souvent des gens du RLQ. Mais notre but, c'était de dire, OK, dans l'OBNL, on voyait, entre autres, c'était ça, d'occuper l'espace média, c'était de participer, envoyer des gens aux commissions parlementaires pour que les propos du monde ordinaire puissent être entendus là-bas. Donc ça, c'était des options qu'il va peut-être falloir voir plus tard. Mais pour l'instant, on a dit, occuper l'espace média, c'était un de nos mandats qu'on voulait avancer. Oui. Puis on fonce à plein là-dedans. Puis on en fait une émission dédiée.
C'est important ce que tu dis là. Il n'y a pas juste l'espace média. Il va falloir s'occuper de l'espace tout court. Hein.
Oui, il y a une autre étape là, dans ce qui se passe présentement. Là. Puis moi, j'en suis convaincu. Puis lors du meeting du RLQ en octobre, il y avait un atelier sur le conservatisme avec Tasha Garradin, puis Adam, je ne sais pas son dernier nom, j'ai peur de mal le prononcer. Et l'atelier, c'était qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis j'avais pris la parole, j'ai dit, bon, ben, ça prend de l'espace média, puis ça prend des gens qui vont aller nous représenter dans les commissions. Donc ça, c'est une étape qu'il va falloir que quelqu'un prenne en main. Ça va prendre quelqu'un qui va pouvoir vivre de ça, quitte à avoir un organisme que le monde donne des dons, puis ça ferait en sorte qu'il y aurait comme une permanence de gens, que ça deviendrait leur métier et qui pourraient aller nous représenter.
Parce que faut se battre à armes égales par rapport à justement à tous ces organismes de gauche qui assez souvent sont subventionnés. Et même nous, on avait pensé, et là, vous pouvez nous juger sur ce qu'on va vous dire, mais on avait pensé même utiliser des subventions. On s'est dit, on va utiliser le système pour leur prouver.
Mais on se posait la question.
Oui, on se posait la question.
Est-ce qu'on devrait ou non, est-ce que ça pourrait nous faire partir sur le bon pied pour débuter, justement pour pouvoir avoir des gens
parce
rémunérés?
Parce qu'il existe des subventions actuellement. Ben oui, il y a beaucoup d'organismes de la gauche, que ce soit des gens qui protègent l'environnement, qui protègent d'autres valeurs altruistes, mais qui font beaucoup de lobbying, qui font beaucoup de pression sur l'État. Ouais. Donc, la droite, ou on va dire ceux qui défendent des idées libertarienne, de liberté ou de responsabilité. Donc, peu importe les allégeances, mais il y a peu de gens actuellement qui sont en mesure de pouvoir mettre ces structures-là administratives, de nourrir des gens qui peuvent s'occuper de ça à temps plein. C'est sûr qu'il va falloir passer à cette étape-là. Tu as parfaitement raison, Danny, parce que sinon, on va être coincé.
Exactement. Puis l'affaire, c'est sûr, on avait eu cette discussion-là parce qu'on se disait, est-ce que c'est un peu contre les principes, mais en même temps, si on veut partir fort... Puis dire, écoute, viens comme porte-parole, mais tu vas être rémunéré. T'sais, on se pose la question.
Oh oui.
Finalement, on était pas mal rendu à l'option que c'était non, on voulait pas de subvention.
Non, effectivement.
Mais la fin, c'est ça, c'est qu'il y a eu un exemple. Il y a un mois, il y a eu une commission qui a été faite à Québec, puis moi, j'étais malade, fait que ça m'a permis d'écouter ces affaires-là à la TV, là, sur, pas CEPAC, mais le canal de l'Assemblée nationale. Il y avait un débat sur justement le lock-out à Québécois a fait en sorte que ils ont parti comme une commission pour étudier quelles devraient être les lois du travail concernant les syndicats puis tout ça. T'as vu la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui a passé. Tous les syndicats ont passé et c'était tellement drôle de les voir parler pendant la commission, là, parler de capitalisme sauvage puis tout ça, le langage typique des syndicats. Je pense que Pierre-Carl Péladeau avait été lui-même là-bas des représentants. Il n'y avait personne qui représentait le peuple.
Non.
Le payeur de taxes, la personne ordinaire, la classe moyenne. Et je pense que on est bien parti avec des mouvements. Il y avait des radios web qui parlaient de droite depuis 2005-2006 à peu près. Des gens qui ont commencé à plus petite échelle, des blogs, le RLQ qui vient, notre émission. Puis je pense que dans la suite, ça va prendre quelqu'un qui peut aller dans ces commissions-là puis défendre, exemple, les rencontres prébudgétaires. Là. Quand est-ce que le citoyen va aller se présenter dans ces commissions-là pour dire voici
pour
ce qu'on
moi,
devrait
faire? Pour moi, c'est pas clair. C'est encore exemple. Les leviers qu'on peut utiliser en tant que citoyen, en tant que contributeur. Parce que, bon, il y a de militer dans les partis qui est une option. Il y a, y a justement de mettre sur pied peut-être un organisme là, complètement là, à neuf, là, donc avec un principe de membership pour justement, comme tu dis, pouvoir créer là, cette richesse-là au sein de l'organisme pour pouvoir investir là, sur des gens qui pourraient être les porte-étendards. Mais à quelque part, il faut aussi que le peuple trouve une façon pas sporadique, mais continuelle de s'exprimer. Où est la voix actuelle des citoyens?
Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup, puis c'est pas avec... on en a fait la démonstration ici à l'émission, lorsqu'on a fait le sondage, là, on a répondu au sondage du ministre Bachand, là, avec ses orientations économiques. Est-ce qu'on en tient vraiment compte? Est-ce que c'est des voix formalisées? Non, parce que, quelque part, on induit par les réponses aussi déjà un certain discours. Donc, on met les mots dans la bouche des gens. On veut entendre, en fin de compte, on s'organise pour entendre ce qu'on veut toujours entendre, la même chose. Donc,
puis dès la présentation sur leur site, c'est écrit, en gros, tu vois le ministre Bachand qui dit, c'est écrit « Préserver nos valeurs ».
Ben oui.
Déjà là, le spin est lancé de dire, écoutez, là, suggérez-nous pas des coupures dans nos programmes sociaux, là, on veut protéger nos valeurs.
Non, c'est,
déjà ça, là, c'est pas, ça part pas de façon neutre, là, cette affaire-là. Là.
Définitivement pas. Pas. Puis il va falloir se poser la question. Moi, je veux qu'on le fasse à l'émission. Comment on peut peut-être. Il y a peut-être des gens déjà qui y pensent ou qui ont déjà quelque chose en ébullition par rapport peut-être. À ça. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que le réseau Liberté Québec, avec ses tribunes et ses événements, permet justement à des gens peut-être de tâter le terrain. Oui. Et si vous avez des intérêts, ou j'imagine que vous avez déjà mis dans votre plan d'affaires de vous présenter dans ces événements-là, parce que vous pouvez sûrement vous amalgamer avec d'autres personnes. Puis je pense que la difficulté là-dedans, c'est sûr, au Québec, il faut trouver un bon porte-parole, une bonne tête d'affiche, quelqu'un qui peut se présenter, avoir la crédibilité dans les médias québécois, parce que tout est une question d'image au Québec. C'est difficile d'avoir du airplay. Ouais. Comme on dit en anglais, si on n'a pas ce niveau d'attention-là des médias québécois. Mais
puis aussi, c'est choisir la bonne personne. T'sais, imaginez, là, puis je vais nommer quelqu'un, mais imaginez un Henri Massé de droite qui serait le représentant de la classe moyenne. Ça n'aurait aucun sens. Ça serait vu comme étant du populisme, de la démagogie. Imaginez un gars qui va à coup de tabarnak, puis... Les syndicats, c'est des gnagnagnans, tu sais. C'est pour ça que ça prend comme pas de parole.
Non,
là.
C'est ça.
Donc, c'était un défi d'essayer de trouver quelqu'un là-dedans. Puis, m'est venu un autre exemple pendant que tu parlais. Il y a eu un forum économique il y a 2 ans ou 1 an à Lévis. On réunissait toutes les grandes pointures, là. Mm-hmm. Donc, les syndicats étaient autour de la table, les groupes du patronat. Il n'y avait aucun groupe de citoyens à cette réunion-là. Il n'y a pas eu d'invitation pour ça, là. Une des suites, là, puis là, je pense pas que ça passe par nous deux, là.
Non.
Mais je lance l'idée, là. Tu sais, je lance l'idée. Comment qu'on pourrait faire pour que nos voix soient entendues par ces gens-là? Oui, on peut envoyer des courriels à nos députés. Oui, on peut les appeler. Des fois, on peut arriver, puis si on est 1000 à téléphoner le député dans la même journée, là, s'ils sont de bonne foi, ils vont peut-être comprendre le message, mais j'ai déjà entendu une fois un animateur radio qui avait demandé aux gens d'appeler leur député, et la secrétaire... C'était rendu qu'elle demandait aux gens qui appelaient, « C'est-tu la radio que vous envoie? » Tu sais, en voulant dire, « Si tu viens de la radio, là, raccroche donc, ton opinion nous importe peu. » Ah ouais, donc, ça va être peut-être un des défis d'en connaître la suite. Mais c'est vraiment comme ça qu'on voyait l'organisme. Donc, dans la chanson, il parle de passer à autre chose côté musical. Mais nous, c'était passer à autre chose côté comment que le Québec fonctionne. Puis on vise plus le Québec. Hein, donc, vraiment...
Oui.
Tu sais, quand le Québec sera amélioré, ben tant qu'on sera
au Canada,
on passera à l'autre. Là, mais pour l'instant, je pense qu'on a vraiment beaucoup d'éducation à faire. Puis moi, l'émission me sert à apprendre des choses nouvelles. Et puis je me dis que si j'en apprends, les auditeurs en apprennent aussi. Donc c'est cet aspect-là, nous, on dit, on voulait occuper de l'espace média. Donc là, on a un show 100% qui parle de liberté de responsabilisation individuelle. On a chacun notre degré de comprendre les différents enjeux, puis tout ça, puis c'est normal. On peut pas être exactement au même point sur l'échelle de la droite.
Non, effectivement.
C'est une bonne affaire, mais ça permet aussi les discussions, puis tout ça. Puis je pense qu'on n'a pas à se sentir mal à l'aise de faire un bazo.tv, mais de droite,
non,
à l'émission qu'on
a avec
la suite.
Hey, Danny, c'est la fin de l'émission. La semaine prochaine, on va avoir un entrepreneur, un fier entrepreneur dans le domaine de la santé, en plus, Dr Lacroix, qui va être avec nous. Et l'autre, on va se garder une surprise.
Ben oui.
Donc, inscrivez-vous sur la liste de distribution si vous voulez connaître les invités 24 heures à l'avance. Ici Steve Martineau et Danny Quirion qui vous souhaitent une bonne semaine. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine à connaître la suite. Vous écoutez l'émission sur les ondes du XM 172.
Bye
bonne
bye.
Semaine. Now maybe, dear, I mean to treat you bad.